Jase 102.1.
Émission d'En Jase de votre mercredi 10 juin, il est précisément midi 1 minute. Très belle journée sur Québec présentement, c'est 24 degrés, il annonce 28 degrés, c'est un peu nuageux, mais il fait beau, il fait chaud, on en profite. 30% de possibilité d'averse, peut-être des nappes de brouillard en cours de nuit, donc il y aura de l'humidité. On le voit, là, ouais. On le sent à l'extérieur.
C'est lourd dehors, là, pour
ouais,
vrai.
Oui, c'est
là,
ça, moi, j'ai pas touché à l'extérieur depuis 5 heures à matin.
Il y a vraiment une bonne différence, là. J'ai été beaucoup à l'extérieur ce matin, là, puis on le voit, là, c'est comme de plus en plus opaque. Il y a un smog, quand même, qui s'installe. D'après moi, on doit être à pas loin de ça, 27-28 ressentis, là,
ouais,
déjà.
Oui, exactement,
là.
Puis annonce même jusqu'à 32 ressentis aujourd'hui. 29 degrés demain avec 30% de possibilité d'averse. Vendredi, c'est 60% de possibilité d'averse à 27 degrés. Fait que, bref, enfin la mi-juin, enfin l'été, enfin le beau temps, ça fait du bien. Mais ça n'empêche pas, Anto, qu'on chicane pas à peu près à l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est presque fini, là.
C'est donc bien compliqué, une boisson énergisante.
Oui, c'est plus compliqué qu'on peut le croire au premier regard. Oui.
Exactement. Puis tantôt, justement, je vais te faire entendre des extraits de notre entrevue que j'aimerais appeler Lunaire avec Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski pour le Parti conservateur du Québec, qui a tenté de nous expliquer... Pourquoi le PCQ, depuis la semaine passée, focaille tout dans le dossier?
Donc, je comprends que le message s'est pas amélioré. J'ai hâte d'entendre les extraits, honnêtement, parce que, bon, il y a eu une première journée d'intervention de Maïté Blanchette et de son chef, Éric Duhaime, qui a été, comme tu dis, un peu lunaire.
Ouais, non, ça
le lendemain, on dirait qu'il s'en allait sur la bonne voie. Là, c'est reparti du mauvais bord.
Non, ben, on va dire oui, finalement, mais on essaye encore d'expliquer pourquoi on disait non. Puis on essaye encore de se péter les bretelles en disant, ben, vous voyez, il y a des gens, on en parle. C'est grâce à nous.
Mais c'est vraiment leur seul objectif, hein? Faire parler, dans le fond.
Ben, c'est ça, faire parler. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en... peut-être ça va pas même les sondages, on va parler de ça aussi, évidemment. Vous le savez, 418-971-1021 pour nous texter, que ce soit des analyses intelligentes, des jeux de mots drôles, votre opinion, une joke que vous avez le goût de nous conter, ou le fait qu'il y a un auditeur qui nous confirme qu'il y a de l'humidité parce qu'il y en a dans ses bobettes présentement. Vous pouvez nous texter tout ça au 418-971-1021. On est preneur pour toutes les informations. Pas dit qu'on va toutes les lire en ondes, mais ça, là, je le trouve quand même cool.
Bon.
Par rapport à météo, là.
C'est sûr que c'est ça. Ça a un impact sur toute la société.
Exactement.
On voit ça à l'humidité à cet endroit précis, là.
Précis,
très niché.
Ça a vraiment un impact. BLVD 102.1, c'est notre application disponible sur App Store, Google Play Store pour nous écouter. On se lance immédiatement dans le caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Les grosses nouvelles se passent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On les fleurit avec les boissons énergisantes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais avant, Anto, moi, je pense que c'est très important qu'on se remette dans le bain pour parler d'un dossier important. Et qu'on rend hommage à notre ancien premier ministre, François Legault.
Il n'y a jamais rien de sûr en économie. J'ai appris ça en affaires, moi, là. Puis ce qui est important, c'est la moyenne au bâton.
Ouf!
La moyenne!
Là, dis-moi donc, la vérificatrice générale n'a pas trouvé que la moyenne au bâton était bonne, hein, pour la CAQ. Attends, on va réécouter François Legault, là, pour être sûr.
Il n'y a jamais rien de sûr en économie. J'ai appris ça en affaires, moi, là. Puis ce qui est important, c'est la moyenne au bâton.
Puis, y a-tu une bonne moyenne au bâton? Fais-tu l'alignement des Blue Jays ou pas pantoute?
Bon, écoute, selon la nouvelle vérificatrice générale, Mme Roy, hein, on est habitué à avoir la même personne à la tête de cette organisation-là depuis longtemps. Non, c'est pas la note de passage est donnée à la filière batterie. Elle parle d'une approche peu planifiée, des suivis non rigoureux. Et ça, vraiment, j'ai l'impression que ça va être la principale tâche au dossier. De M. Legault.
C'est clair, hein?
C'est le coin de la table. Mm-hmm. C'est, moi, je le sais là, comment ça marche. Là. Moi, j'ai appris ça en affaires. C'est
ouais,
correct.
C'est ça.
Et accompagné de son super ministre de l'époque, Pierre Fitzgibbon, qui avait aussi pas mal cette attitude-là.
Ouais,
de,
François,
moi, je le sais. Je connais ouais. ça, moi.
Hey, François, je te le dis, le fuyard ouais. batterie, là, pff, ouais. ça va marcher.
T'sais,
on pogne 750 millions, ouais. on met ça là-dedans, puis là, mon François Legault.
Ça va être
raison.
Bon. Ça va être bon.
Ça va être bon. La moyenne au bâton.
La moyenne au bâton qui compte. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vrai qu'il faut accepter une part de risque.
C'est
quand
clair.
Tu veux surtout démarrer un nouveau secteur économique, mm-hmm. Il y a quelques dizaines d'années maintenant, on a voulu avoir un secteur du jeu vidéo hein, au Québec. Puis je me rappelle que le gouvernement du Parti québécois était très actif et très impliqué. Et il y a eu beaucoup de subventions, il y a eu de l'argent public qui a été mis là-dedans. Quand tu veux démarrer un nouveau secteur, il y a du risque, il y a des investissements. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que le risque n'était même pas calculé et il n'y avait pas d'indicateur, il n'y avait pas d'objectif clair. Donc, ouais. comment tu veux faire un suivi? Ça, c'est comme la base de toute gestion.
T'es-tu en train de me dire que Northvolt a été fait sur une napkin comme le tramway?
Bien, puis Northvolt, c'est le dossier qui retient beaucoup l'attention, qui a frappé l'imaginaire.
Ouais.
Mais on peut parler de Taiga, on peut parler d'Autobus Lyon, on peut parler mm-hmm. de plein d'autres projets
ouais,
qui
n'ont
pas abouti.
C'est la filière en entier, t'as
c'est
raison.
La filière en entier. Puis dans les dernières années, ben, les gens qui travaillent encore dans la filière, parce que c'est pas complètement mm-hmm. décédé, là, essayaient de nous convaincre qu'il y avait encore des projets qui étaient sur les rails. Mais c'est comme si à tous les six mois, il y avait un projet justement qu'on apprenait qui était soit au point mort ou qui avait complètement déraillé. Puis ça va vraiment rester collé à la peau de la CAQ. Et bon, Christine Fréchette a réagi il y a quelques instants. On écoutait sa mêlée de presse. Écoute, la face d'enterrement. Mmh. Je veux
ben
dire...
Parce que c'est dur partir en campagne électorale avec ce bilan-là.
On s'entend. Par contre, le timing du dévoilement du rapport de la VG, c'est un peu de sa faute aussi en même temps. Puis je vous explique. C'est que, tu sais, vous rappelez que l'Assemblée nationale a été fermée pendant plusieurs semaines.
Oui.
On
Donc,
a prorogé.
Donc, ça aurait été avant,
ben
ce
oui.
rapport-là.
Là, elle a ça d'impact la dernière semaine. Et vous savez, en communication, que ce soit en communication politique ou dans n'importe quelle forme de communication, les deux moments où les gens sont les plus attentifs, c'est au début et à la fin.
T'as raison. Mm-hmm.
La dernière semaine à l'Assemblée nationale, les partis politiques vont travailler extrêmement fort pour marquer l'imaginaire des gens, des électeurs, des citoyens, avant de partir pour l'été. Ou est-ce qu'on va parler un peu moins de politique? C'est un peu avant Noël, là, mm-hmm. quand c'est la session de Noël, on dit de quoi les gens vont parler autour de la dinde. Mm-hmm. Là, c'est de quoi les gens vont parler autour du barbecue. On s'entend que terminer la session parlementaire là-dessus pour Christine Fréchette, c'est pas une bonne nouvelle. Et elle a été ministre de l'Économie.
Ouais.
C'est sûr qu'on peut quand même marquer une différence entre Pierre Fitzgibbon, Christine Fréchette, et même entre M. Legault et Christine Fréchette.
Bien, elle a tenté de le faire, justement, tantôt, en répondant à une question d'André Fortin, chef parlementaire pour le PLQ, à la période des questions. On l'écoute.
J'aimerais souligner que dès mon entrée en fonction, lorsque j'ai été nommée comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ben moi, j'ai demandé à ce qu'on réduise l'interventionnisme économique pour certains des joueurs de la filière batterie. Et j'ai notamment en tête l'entreprise Northvolt, qui était en demande pour l'injection de fonds publics additionnels, ce que j'ai refusé. Et j'ai en tête également l'entreprise Lyon, qui était en demande d'injection de fonds publics additionnels, ce que j'ai refusé également. Donc, la prise de risque par le gouvernement sous ma responsabilité à l'économie, elle a été diminuée.
Elle va-tu être capable de se détacher, puis là, je fais une image là, du Boys Club, là, t'sais, de mm-hmm. Legault Fitzgibbon au Cigar Room avec leurs cigares, leur scotch, qui disent « Northvolt, ouais, on y va!
Ouais, » c'est oui, je pense qu'elle va quand même réussir un peu. C'est pas une bonne image pour terminer la session.
Non.
OK? Puis la CAQ, pour remonter la pente, ils n'ont pas le droit à beaucoup d'erreurs puis beaucoup de choses négatives. Là, on s'entend. Puis on va reparler du sondage qui est sorti ce matin dans quelques instants.
Oui.
Puis on va se demander si ça va avoir un impact pour les prochains sondages. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est assez clair que Mme Fréchette était pas... avait pas un leadership énorme face à François Legault. Là, les gens peuvent dire...
C'est la question qui
oui.
me brûle les lèvres depuis tantôt. Est-ce que je suis trop naïf, Antonine, de croire qu'elle ne savait pas tout? Pour vrai.
Ben...
Parce que le Boys Club dont tu parles, me donne l'impression qu'il y avait des décisions.
Ben moi, pour moi,
on
c'est
donne
un
l'image,
fermé,
là, mais c'est
là.
Ça, tu es fermé avec un petit cigare, un scotch à main, gars, fais-moi confiance, on va acheter le terrain, ça va être correct.
Oui, puis elle a juste ramassé les désordres après, là.
Ben, c'est ça. Est-ce que je suis trop naïve de penser ça?
Non, je pense pas. Par contre, je dirais pas qu'elle était pas au courant des choses. Okay. Parce qu'ils sont sur, tu sais, je vous épargne la poutine, mais ils sont sur des comités ministériels, c'est discuté dans les conseils des ministres. Mais qui tranche? Qui décide? C'était M. Legault.
Ben oui.
Après ça, puis je suis sûre qu'on va recevoir des textos. À chaque fois qu'on dit ces choses-là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais elle n'était pas obligée de le faire, elle aurait pu partir. » Bien sûr, OK? Mm-hmm. C'est sûr qu'elle a approuvé en quelque sorte certaines choses. Mais dans notre système politique, c'est le PM qui décide. Puis M. Legault, la filière batterie, c'était son bébé.
Oui. C'était le lait.
C'était le lait qu'il voulait laisser au Québec. Donc, voir que Christine Fréchette aurait pu... Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était mitiger les impacts négatifs.
Oui, c'est ça. Puis essayer de trouver des voies de passage ou essayer justement s'il y avait des choses avec lesquelles elle était
peut-être le tempérer.
En désaccord. C'est ça, de tempérer.
Alors que Pierre Fitzgibbon, je pense pas qu'il tempérait personne.
Parce que dans la vie, t'as entièrement raison. On a tous un patron. Mm-hmm. Puis à un moment donné, quand le patron dit « Ben, guys, je vous ai écouté, j'ai pris ma décision, c'est ça. » Ben là, t'as le choix de te rallier ou de partir.
Exactement.
Mais, t'sais, il se peut que dans des situations, tu te dises « Ben, je suis quand même mieux de me rallier parce que j'ai un autre gain à telle place, j'ai
oui.
un autre gain
ça
à telle... »
Ça me fait penser à Stephen Guilbeault. Oui. Il est resté le plus longtemps, il a essayé d'influencer de l'intérieur. À un moment donné, il a dit « C'est trop. » Madame Fréchette, si elle était partie, elle n'aurait pas eu plus d'impact sur la filière batterie.
Du tout.
T'sais, donc, t'sais, à un moment donné, bon, il y a ça. Par contre, je dis pas que c'est super positif puis que c'est extraordinaire puis qu'elle est blanche comme neige. Du tout. Mais je pense que si c'était pas du timing, mettons que c'était sorti la semaine passée, là, je pense pas que ce serait si grave que ça pour elle. Puis les gens sont capables de faire la différence. On change de chef, puis l'approche... change en même temps. Puis les partis politiques changent beaucoup avec les changements de chef aussi.
Vous êtes plusieurs à réagir. 418-971-1021. Continuez. Bon, on parle... Il y a un auditeur qui nous dit « Hey, Anto, c'est pas une tâche, c'est un dégât. » C'est bien correct. Il y a d'autres qui disent « Hey, il y avait déjà des signes en Allemagne. On investissait moins. On aurait dû le savoir. C'est pas au gouvernement. » Ça, c'est une bonne intervention, je trouve, d'un auditeur, d'une auditrice. « Hey, je trouve que c'est pas le rôle du gouvernement d'inventer un secteur d'activité. Moi, je pense qu'il y a le rôle du gouvernement de dynamiser les secteurs qui sont déjà en place pour les solidifier. J'aime ça.
Bien, c'est des approches qui sont toutes valables. C'est sûr qu'il y a des secteurs dans lesquels, s'il n'y a pas d'intervention du gouvernement, ça n'arrive pas. Tu sais, je pense à l'aéronautique, par exemple.
Ouais.
C'est pas, il faut que le gouvernement soit proactif. Mais on sait que la base, c'est surtout que le gouvernement crée un environnement d'affaires qui soit propice.
Mm-hmm.
Mais pas une économie contrôlée non plus.
Pas investir 750 millions comme il a été fait. Ah, ça t'a fait déjà lien les sondages. On voit ce matin, perte de vitesse du côté du Parti libéral du Québec. Je ne suis pas surpris du tout parce que le Parti libéral n'est pas capable de prendre une décision. Donc, à un moment donné, tu veux élire des gens qui vont diriger.
Ça serait bien de savoir ce qu'ils veulent faire.
Exactement.
On ne le sait pas encore.
On ne le sait pas du tout. On sort d'un conseil général du Parti libéral du Québec, puis je ne sais pas encore qui est le Parti libéral du Québec, donc on ne peut pas voter pour eux autres.
Non, puis le fait qu'ils n'arrêtent pas d'insister sur la question de la langue...
Ben oui!
À un moment donné, au départ... C'est les adversaires politiques qui l'amenaient là parce que c'est très inconfortable pour lui, visiblement. Mais là, en fin de semaine, il a recommencé avec ça.
Oui, puis là, vous allez voir, je vais vous l'amener. Mais avant le Conseil général, il dit, vous allez voir, je vais clarifier ma position sur la langue française. Parfait, on sort du Conseil général. Ça va être le 21 juin. Hey, là.
Puis pendant ce temps-là, moi, en tout cas, je vais vous le dire, si j'étais à la CAQ, je m'arrangerais pour faire un baillon sur le projet de loi sur la langue. OK, puis là, les gens vont dire, c'est bien épouvantable, des baillons.
Ouais.
Oui, OK. Mais le projet de loi qui veut étendre la loi 101 à la formation professionnelle, si tu fais un baillon, ça veut dire que tu as un autre 2 jours où le Parti libéral va être pogné pour encore se justifier parce qu'ils sont contre là, l'étalement de la loi 101 à la formation professionnelle. C'est tellement inconfortable. Moi, je prolongerais le plaisir si j'étais les adversaires de M. Milliard.
C'est clair. Hey, juste une petite note de circulation. Direction Ouest, on nous dit que c'est jam-pack sur la 20. À la hauteur de Saint-Nicolas. Donc, soyez patients et continuez de nous écouter, guys, et continuez d'interagir là, au 418-971-1021. Donc là, dans ce sondage-là, on voit une perte de vitesse de 5 points du côté du Parti libéral du Québec. On voit, par contre, une certaine montée de la CAQ. Puis là, c'est à se demander si cette montée-là va rester. Parce qu'il y a des gens qui voient du changement en Christine Fréchette. Là, je ne veux pas faire de l'âgisme, mais ça le dit dans le sondage, surtout les 55 ans et plus.
Absolument. Le PQ est stable. Donc, on est à 31 % du côté du PQ et c'est assez conforme au dernier léger là, qu'on avait vu il y a quelques jours. Donc, malgré vents et marées, malgré le référendum, on continue d'être premier dans les sondages. Puis quand on regarde le score du PQ, ben, c'est similaire à l'appui à la souveraineté. Donc, la souveraineté est à 30 % le PQ est autour de 30 % c'est logique et on n'a pas besoin de 50 % plus 1 pour gagner le gouvernement. Donc, il continue dans la même voie. Moins 5 points pour le Parti libéral, c'est sûr que ça fait mal. Donc, il y a des questions à se poser. Moi, je pense que la question de la clarté, effectivement, ça va finir par jouer.
Vraiment.
Parce qu'à force de vouloir déplaire à personne, mais tu plais à personne non plus.
Exactement, parce qu'on est passé de 30 % à 25 %. C'est une grosse baisse, tu sais, c'est en termes de sondage de popularité. Puis on a baissé autant chez les non-francophones que les francophones.
Puis alors que les francophones, la pente était encore à remonter.
Exactement.
Pour le Parti libéral. Puis là, il faut le dire, le score chez les francophones, à partir de... Si le PLQ veut rentrer dans ce qu'on appelle la zone payante, là, ce qui commence à donner des comtés, il faudrait qu'il score autour de 24 % chez
les
francophones.
Et là, il est à combien? Il est à 17 à peu près, je pense?
Oui, puis c'est catastrophique, honnêtement.
C'est ça.
Puis là, tu sais, j'entendais M. Milliard dire « Nous, là, on veut vraiment une approche plus inclusive. On veut pas, on veut la carotte, pas le bâton en matière de langue. » Puis je me disais « Coudonc, il veut-tu réussir à aller chercher encore plus d'appui des votes allophones puis anglophones? » C'est parce que t'es déjà toutes.
Exactement.
Décroche, offre-nous autre chose. Tu le disais, la CAQ a augmenté de 3 points. C'est conforme aussi au léger. On voit que l'arrivée de Christine Fréchette a donné une lueur d'espoir. Puis quand on voit des scores comme 31 PQ, 25 % PLQ et 21 % CAQ, bien, je pense qu'on peut effectivement confirmer qu'il y a une lutte à trois qui se dessine.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'elle va se maintenir jusqu'à l'élection? Je ne peux pas vous le dire. Mm-hmm. Là. Mais ce que je vois, c'est beaucoup d'imprévisibilité. Et je me demande, parce que là, il y a eu la sortie du PQ hier sur le TGV. Le PQ est sorti très fort. Pas genre, je pense qu'il y a des améliorations à porter au projet. Là. On ne veut pas d'autres liens avec l'Ontario. C'est un train libéral de l'unité canadienne. On ne veut rien savoir de ça. On sortir de ça et on veut 40 milliards.
C'est ça. Ouais. Hey, puis là, dis-moi donc, si on se sépare, là, on va continuer à faire de la business avec le Canada. Ouais,
moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on construit un mur autour du Québec.
OK, ouais, c'est ça, ça comme hein. Nathan disait hier, là, c'est la muraille. Là, c'est les...
Mais c'est, on reprend les fortifications à côté du carré du Hauville.
Puis on les continue. Là,
c'est, ça.
On,
c'est ça.
Parce que t'es un
ça TGV. La grande muraille du Québec.
Là, supposons, là, on se met on se met justement dans l'hypothèse que le Québec est un pays.
Ouais.
Notre métropole est Montréal.
Ouais.
La métropole du Canada va être Toronto. Mm-hmm. D'avoir un lien là, qui...
Ben, moi, si on m'offrait un TGV vers New York aussi, là, je trouverais ça intéressant, même si on,
c'est ça,
même
hein?
si on a des mais enjeux non. avec les États-Unis et ouais. que c'est un autre pays.
Fait que même si on devient pays, le TGV, il a sa raison d'être.
Écoute, je n'étais pas là hier, fait que j'ai pas pu m'exprimer
vas-y,
là-dessus.
Vas-y, exprime-toi.
Je vais vous dire, je comprends la tactique du PQ. Qui est de se dire, Lanaudière, Laurentide, beaucoup d'opposition sur le tracé, même en Mauricie. C'est des votes... Vous savez, les votes contre quelque chose, c'est toujours plus fort et plus mobilisé que des votes pour quelque chose. Des agriculteurs fâchés, là, ils vont parler fort. Tu leur donnes...
Puis ils vont voter pour toi.
Ils vont voter pour toi. Des futurs utilisateurs de trains, là, c'est plus flou un peu comme électorat.
On prend la stratégie.
Ouais. Donc, c'est une stratégie plus à court terme. Est-ce que... À long terme, le message que ça va envoyer est le bon. Ça, j'en doute un peu plus. Parce que le PQ a l'air vraiment anti-économique. Ils sont contre tous les projets.
Ouais.
Ils se positionnent contre tous les projets.
T'as raison.
Ils sont contre l'entente avec Terre-Neuve. Mais ça, on n'a pas besoin de tout ça, l'entente avec Terre-Neuve.
Alors qu'on a besoin d'Abarouette, là.
On en a besoin, mais les Terre-Neuviens en ont bien plus besoin que nous autres en passant.
Oui, mais on en a besoin nous autres aussi, parce que ça augmente notre capacité hydroélectrique. On a des contrats avec Boston, on a des contrats avec New York.
Exactement.
Présentement, on importe plus qu'on exporte. Fait qu'à un moment donné, c'est des statistiques, ça.
Tu sais, je veux dire, au Québec, là, on a de la misère à construire une éolienne.
Oui.
Bon, c'est dur de faire des projets déjà au Québec.
Oui, parce qu'on est dans le pas dans ma cour.
On est dans le pas dans ma cour. Donc, le PQ, c'est sûr que quand tu es dans l'opposition, tu n'as pas d'affaires à trop te mouiller. Puis tu es souvent contre, tu vas encourager les manifestants de tout, puis c'est bien correct. Mais là, quand tu es aux portes du pouvoir et tu es supposé te positionner comme un gouvernement en attente, là, tu promets un référendum, tu l'assumes, c'est bien correct, mais tu sais qu'il y a de l'anxiété, tu sais qu'il y a des soubresauts économiques, il y a la crise tarifaire. Je m'interroge sur l'approche qui a l'air... Un peu, je vais mettre vraiment un désordre, parce que là, c'est un autre front qu'on ouvre contre Ottawa. C'est sûr que le PQ aime ça faire des chicanes avec Ottawa, Mais là, c'est des investissements fédéraux. Je vois pas pourquoi le fédéral nous redonnerait 40 milliards
ben,
si on sortait
plus,
de ça. Il y aura juste plus de projets. Si le PQ est élu, il y a juste plus de projets. Et
ça.
On s'est pas laissé beaucoup de place à la négo.
Mais est-ce que c'est ça la stratégie du PQ? De pas avoir de stratégie puis d'y aller all-in puis de dire nous autres.
Mais je pense
c'est
que
comme
c'était...
ça qu'on pense que ça devrait être. Puis si on est élu en ouvrant notre jeu, ben tant mieux, après ça, il n'y aura pas de quiproquo. Tu sais,
ben
vous
ça,
nous avez
bon.
Élus comme ça. Mais en même temps, parce que stratégiquement, comme tu dis, pour l'élection, il y a bien des gens en communication qui regardent ça, ces lignes de côté, puis ils doivent se dire wow.
Ben, moi, j'aime la transparence. Puis je pense que ça a toujours été un atout pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais des fois, tu sais, je regardais l'annonce, puis je me disais, en as-tu vraiment besoin?
Ouais.
T'es premier dans les sondages. Mettons qu'il n'avait pas fait de sortie sur le TGV. Y a-tu quelqu'un chez eux qui aurait dit, en tout cas, moi, j'appuierais pas le PQ parce qu'il ne s'est pas prononcé sur le TGV?
Personne
pensait à ça. Personne n'a demandé ça.
Non, ben non, on ne l'a pas vu venir pantoute hier. C'est ce qu'on
ben
se
non,
disait
non,
les
on
deux.
Puis moi, c'est le commentaire que j'ai le plus reçu hier. J'ai publié ça sur mes plateformes de médias sociaux.
Ouais.
J'aime ça quand les gens m'envoient des questions ou leurs opinions. Et là, phrase que j'ai le plus reçue, c'est « Peux-tu m'expliquer? Je ne comprends pas. »
Exactement.
Et ce n'était pas négatif. Les gens étaient comme « Écoute, ils sont tellement sortis forts, ils doivent avoir une raison.
Ben »
oui. Ben, à part des votes, comme je vous disais, autour du tracé, là, je comprends pas.
En passant, Antoine, moi, je te fais une reconnaissance parce qu'il y a une auditeur, une auditrice qui nous a écrit « Antonine est tellement bonne pour parler des stratégies politiques. » Fait que vois-tu, toi, t'es capable de l'expliquer.
J'ai fait ça à un moment donné dans ma
mais
vie.
Mais bravo!
Aussi,
mais
ça paraît un peu.
Ouais. Bonne
je
question.
Dirais que ça paraît un peu.
Ouais, c'est ça. Bonne question d'un auditeur. Est-ce que c'est encore la vieille tactique du PQ qui a toujours été la même? On provoque des fausses chicanes Québec fédéral pour manipuler les émotions des gens?
Ben, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et si c'est pas ça, ben c'est ça que les gens comprennent. Donc, à un moment donné, ça veut dire que si c'est pas ça ta stratégie,
ça.
Ben change de message. Ouais. Puis, ils soulignent des enjeux légitimes.
Oui.
C'est cher. Il y a des problèmes sur le tracé. Est-ce qu'on peut vraiment se fier sur le fédéral pour pas que ce soit un fiasco? Tu sais, je partage leurs préoccupations. C'est juste de dire, c'est non, on n'en veut pas. On veut pas un lien avec l'Ontario.
À cet effet-là, le meilleur positionnement pour moi, c'est la CAQ. On écoute Benoît Charrette dans Scrum hier.
Est-ce que la première ministre a répété à plusieurs reprises pendant sa campagne à la chefferie, c'est pas un projet de société dénigrer tout ce qui vient du fédéral. Le TGV comme tel, c'est un projet structurant qui mérite d'être étudié. On ne le cautionne pas dans sa version actuelle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails qui restent à venir, mais on est très intéressé à ce que le projet se développe. Il faut laisser la consultation se faire. Il faut laisser au fédéral la possibilité de préciser les coûts. Il faut laisser au fédéral la possibilité de consulter les gens et déterminer le tracé. Et après, on pourra conclure que c'est un bon ou un mauvais projet.
C'est le meilleur positionnement.
Honnêtement, c'est nuancé. On a de l'ouverture. Mais on
va
dit,
se faire
on...
le chien de garde.
Mais c'est pas un appui sans réserve, évidemment.
C'est pas un appui inconditionnel. On va se faire le chien de garde. On va regarder. À cet effet-là, je veux te faire entendre Maïté Blanchette-Vézina ce matin sur nos zones concernant le TGV.
Ben, nous, on ne croit pas que c'est un projet qui est structurant. On pense aussi que ça risque d'être des sommes qui vont être investies sans réellement être gain d'efficacité là, en termes de coûts versus le passage. On ne sait pas non plus combien vont coûter ces passages. Est-ce que ce sera vraiment plus attractif que l'avion? Beaucoup de questions.
Là, je comprends plus, Anto. Le PCQ, là, c'est un parti à droite de l'échiquier politique.
Ouais.
C'est un parti économique.
Supposé.
Le TGV, c'est réclamé par les gens d'affaires.
Oui, mais c'est du transport collectif. Fait que là, mettons que tu te mets dans la grille d'analyse conservatrice. Généralement, tu es moins excité par des projets de transport. Ils sont alignés sur la position du PCC, donc de Pierre Poilievre, qui souligne exactement les mêmes choses. Puis là, le PQ, ben, c'est plus le PQ qui s'est aligné, c'est conservateur, je trouve, que
en effet.
Le contraire.
Mais le transport collectif, ouais, j'avais comme oublié cette parce
j'avais
que je le vois
ça.
Bien plus
mon
comme
char,
un lien d'affaires.
Mon choix,
mon
choix, aller à Montréal,
mon choix,
mon
Red Bull.
Exactement,
ouais,
mon char, mon choix, mon Red Bull, mon choix. Allez-y, tous les auditeurs, auditrices, dans votre voiture présentement, mon char, mon choix, mon Red Bull, mon choix.
Il va falloir qu'on fasse faire des bumper stickers.
Ouais,
hein? Comme dans le temps,
comme
à la bonne vieille époque, on n'aura pas le choix. Il va falloir faire ça. Mon monster.
Ça nous amène aux boissons énergisantes parce que ce matin, on a eu le bonheur de s'entretenir avec Maïté Blanchette-Vézina concernant justement la position du PCQ sur les boissons énergisantes. On s'était coltaillé vendredi dernier avec Éric Duhaime dans Marceau le matin. L'entrevue avec Éric Duhaime et Maïté Blanchette-Vézina est disponible sur le blvd.fm. On y a demandé, voyons Maïté, pourquoi vous êtes contre l'interdiction des boissons énergisantes? Écoute bien la réponse.
La question, une fois interdit, là, il va être encore dans les dépanneurs. Le commis va pouvoir en vendre à quelqu'un de, disons, 17 ans.
Ouais, mais c'est
sûr
mais
ça va être interdit. Là.
En tout respect, là, les commis ne peuvent pas vendre de l'alcool à des mineurs, et ça, ils le savent très bien. Là. C'est très clair.
Mais disons l'interdiction à 16 ans. Ce que je veux vous mentionner, c'est que les jeunes se tiennent ensemble. C'est possible que la vente continue de se faire à des jeunes d'âge légal, mais que ça se rende quand même chez les jeunes d'âge non légal.
Même chose.
J'adore ton visage. On avait le même visage, les
ben
trois.
Voyons donc.
Même que tu peux entendre en arrière-plan Yannick rire, là, t'es faire. Ben voyons donc, je peux pas croire que c'est ça la réponse. Donc, on n'a pas besoin d'interdire l'alcool et les cigarettes aux jeunes parce
ben,
que de toute façon, ils se tiennent en gang.
Exact.
Puis là, ben si moi, là, j'ai 17 ans puis je me tiens quand j'ai 18, ouais. Là, ben il va acheter de l'alcool puis ouais. Ils vont m'adonner.
C'est ça. Fait que tant qu'à y être, gardons tout ça en vente libre.
Fait qu'on encourage ouais. Le réseau, finalement. C'est
ben,
ça.
C'est
la force du réseau ici. De toute façon. Faisons rien, à quoi servent les lois?
En plein ça!
Il va en avoir pareil.
Ça sert à rien de légiférer parce qu'on peut la contourner. Là. C'est un des arguments que je trouve les moins forts.
Ben oui.
C'est dommage parce qu'ils ont d'autres bons arguments. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, ils ont soulevé des choses que je trouve légitimes. Mais depuis le début de cette affaire-là, c'est comme s'ils essayent de trouver des justifications à leur positionnement
ouais.
Plutôt que d'arriver avec des arguments, puis après ça, par logique, c'est la position qu'ils ont décidé d'avoir. Ils essaient de trouver un objectif à leur sortie.
En effet.
Puis ça, ben, tu fonctionnes
pas.
À l'envers, il y en
c'est
a ça. Pas.
Écoute,
c'est comme si les bons arguments ne feront pas réagir
oui.
Suffisamment. Fait qu'on y va avec ces espèces de flèches-là qui sont courbées un peu aussi, qui ont pas de sens. Puis tu sais, ouais. On en parlait avec Mac, justement, il y a quelques minutes, juste avant que vous rentriez en studio. Puis je donnais l'exemple à Max de ça prend un filet quand même, malgré tout.
Ben oui.
Puis, je pense que c'est avec toi, Jeff, que j'en parlais de ça hier, tu sais, puis tu vas sans doute t'en souvenir, Antonine, aussi. Tu sais, une des meilleures entrevues, je pense, en carrière politique que Justin Trudeau a accordée, c'était à Tout le monde en parle, quand il s'était fait cuisiner sur pourquoi on veut à ce point-là légaliser le cannabis.
Oui.
Puis il avait expliqué que de toute façon, il y en a dans nos rues. Fait si au moins il y a une partie qu'on peut contrôler, parce que non, on ne contrôlera pas tout, c'est pas vrai, mais si au moins il y a une partie qu'on peut contrôler puis qu'on peut éviter peut-être qu'il y ait un enfant mm-hmm. qui réussisse à avoir des boissons énergisantes par le biais des amis plus vieux, ben on a au moins réussi
on
ça.
On met des obstacles.
Ben oui.
Parce que là, c'est trop facile. Puis ça me fait penser, parce qu'il y a quelques jours, on parlait de l'anniversaire de l'interdiction de la cigarette dans les bars.
Oui.
Puis on avait écouté des commentaires en vox pop de l'époque. Puis il y avait un monsieur qui disait « On va fumer dans les bars clandestins parce qu'il va en ouvrir plein, là, des bars clandestins.
Ça... »
C'est jamais arrivé. T'sais, c'est toujours les mêmes arguments.
C'est ça. Exactement. Et j'ai posé la question à Maïté Blanchet-Vézina. J'ai dit « Coudonc, êtes-vous en train de vous enfarger, vous autres-là, là, dans des virgules de projets de loi puis dans des procédures? » Voici sa réponse.
Ben, on vous rejoint totalement. Puis effectivement que le travail de parlementaire peut sembler complexe, là. Mais c'est pour ça qu'on a de la paperasse aujourd'hui. C'est chaque fois qu'on adopte une loi, puis là, je veux pas mélanger deux dossiers, là, mais c'est quand même ça. Lorsqu'on interdit, ça fait embaucher des gens, on se donne un pouvoir, le gouvernement se donne un pouvoir réglementaire, il va avoir un nouveau règlement. Ce règlement-là, on l'a pas vu, on le sait pas. Quelles sont les intentions derrière? Est-ce qu'on va aller jusqu'au café dans les Tim Hortons?
Dans les cafés Tim Hortons.
Ouais.
Puis ça, c'est une autre affaire. Eux, ils disent, OK, interdire, là, c'est pas suffisant. Faudrait, en fait, sensibiliser.
Ça oui.
Aussi, ça demande des fonctionnaires des gens qui font de la sensibilisation.
Oui.
Il y a aucune cohérence.
Non, zéro cohérence. Moi,
ce que je leur donne, c'est ce n'est pas l'idéal de faire des projets de loi sur le coin de la terre.
Tout le monde est d'accord avec ça.
Et il y aurait eu possibilité de faire mieux les choses si le projet de loi avait été déposé avant.
Full d'accord.
Si ça avait été ça, leur sortie... Je pense que tout le monde aurait dit bravo et c'est vraiment utile que le PCQ ait fait son entrée à l'Assemblée nationale.
C'est ça. That's it. Mais non, là, on s'enfarge dans des affaires. Parlant de s'enfarger, Crème, on termine avec ça. Sona la Cayenne, Olivier.
Ta préférée?
Ma préférée. Elle qui nous a fait un théâtre extraordinaire à l'Assemblée nationale où elle a pleuré en disant qu'il faudrait que les élus comprennent qu'il faut renforcer les formations sur l'éthique. On a appris plus tard qu'elle n'avait jamais suivi la formation sur l'éthique.
Mais elle veut que ce soit plus forte.
Exactement. Elle a été mise à l'amende pour 8 000 $, sévèrement blâmée par la commissaire à l'éthique. Elle a justement tenté de détruire des preuves. Elle a fait de l'intimidation
de l'obstruction.
Sur les témoins. Pour dire « tu vas dire ça, tu diras pas ça », ben madame, la Cayenne Olivier a pas assez terni sa réputation parce qu'à l'heure actuelle, il est midi 29. À 13 h à l'Assemblée nationale, c'est le vote. À savoir, il passe-tu par la voie rapide, l'interdiction des boissons énergisantes ou non? Et à midi 29, 38 secondes, si la tendance se maintient, Sona Lacoyenne-Olivier va être la députée qui va dire non, on ne fait pas ce projet de loi-là. Je te fais entendre Gabriel Nadeau-Dubois ce matin à cet effet.
Je vais rester poli, là, mais je pense que Mme Lacoyenne a déjà vu sa réputation passablement maganée dans les dernières semaines. Elle n'a pas besoin d'en rajouter.
Ça dit tout.
Écoute, c'est comment bien finir les choses. C'est ça que j'ai envie de dire. Et deuxième commentaire, c'est voyez-vous comment les députés indépendants, ça peut être une wild card
ben oui,
à l'Assemblée nationale. Parce que là, c'est Maïté Blanchette, qui est une ancienne de la CAQ. Mm-hmm. Il y avait Youri Chassin qui veut bloquer, ben, qui n'a pas réussi, le pauvre, mm-hmm. là, à bloquer bloquer le blocage de la nouvelle carte c'est électorale. Ça. Et là, on a Sona Lacoyenne.
Puis on avait Pierre Dufour aussi qui a fait des siennes hier, qui s'est rallié ce matin. On va l'avoir d'ailleurs en entrevue tout à l'heure à 13h30. Donc, c'est ça. Alors,
donc, il faut que les chefs prennent soin de leur caucus.
Oui.
Parce qu'après, là, ça devient plein de petits emmerdements.
T'as raison. Et pour tous ceux qui rêvent d'un Parlement où tout le monde parlerait de sa voix, ben c'est ça que ça donnerait. Donc,
vrai.
La ligne de parti, oui,
ça a
des
avantages.
Fois, elle nous fait chier pas à peu près parce que des fois, tu te dis, voyons, Christine Fréchette, elle devait pas vouloir Nordvolt pis elle l'a mangé dans la gorge. Puis oui, ça tanne. Mais bien souvent, ça permet de faire avancer des projets de société.
On s'entend. Puis, tu sais, pour ce qui est de Sona Lacoyenne, j'ai un troisième message. Les partis politiques devraient, des fois, je trouve, mieux screener leurs candidats.
Oui.
Donc, à méditer.
Oui. Puis moi, j'aurais le message pour terminer le caucus à Sona Lacoyenne-Olivier. Reste donc chez vous.
Très bon message. J'ai rien d'ajouter.
T'es plus légitime. Reste chez vous.
On pourrait proposer, si vous restez chez vous, Mme Lacoyenne, on va aller vous livrer deux monsters.
Yeah!
Oui, voulez-vous? Ça, c'est une bonne idée.
Hein? Ça va nous faire plaisir.
Monster à volonté.
On s'en occupe nous-mêmes. On va aller vous emporter directement
ça
chez vous.
De toute
à la maison.
Hein? Alors voilà, 13h, ce sera le vote. 13h30, on va avoir. Oh, attends, Sona est en train de parler à la télévision.
D'informations scientifiques. Donc, je trouvais qu'en tant que citoyenne québécoise, il ne fallait pas qu'on prenne des décisions émotivement. T'sais. En tant que député, il faut prendre notre temps et prendre ça à tête froide. Je crois qu'on allait trop vite. Donc, j'étais contre sur le 1, 2, 3.
Si on
a besoin de plus de temps, je vais voter pour parce que le cardiologue m'a appelé pendant qu'on a été en session. Donc, j'ai sorti deux minutes pour lui parler, l'entendre, parce que c'était important, il fallait que je sache et prendre la bonne décision.
Antoine. Alors voilà, vous l'aurez appris sur nos ondes. Breaking news, Sona Lacoyenne-Olivier finalement a décidé de se rallier. Donc, le projet de loi sur les boissons énergisantes qui aurait dû être une carte à la poste.
Ouais.
Tu sais, qui aurait dû être « OK, c'est beau, parfait, guys, 1, 2, 3, c'est fait », aurait été peut-être le drama de l'année 2026 présentement en politique.
Incroyable. Hein?
On fait dur. Hein?
Puis, en terminant, une pensée pour les parents.
Tellement.
Du jeune Zachary Miron qui est décédé à la suite d'avoir consommé boissons énergisantes et médicaments contre le TDAH. Je les ai trouvés admirables du début à la fin. Le travail des journalistes aussi, là, au départ, journalistes d'enquête qui ont sorti cette histoire-là.
Vraiment.
Imaginez, vous avez perdu un enfant, vous faites des mails et de presse de là à l'Assemblée nationale, vous rencontrez des partis politiques qui font de la petite politique autour de votre enjeu, là. Hey, je les ai trouvés très courageux.
Puis, puis des petits monsieur, des petites madames qui veulent avoir le spotlight sur eux autres. Là.
Ben, c'est ça, là.
Quand le spotlight devrait être sur la mort de cet enfant-là puis sur le pas en avant qu'on fait en tant que société.
Pour éviter que ça arrive de nouveau. C'est des parents qui ont essayé très fort de donner un sens à la mort de leur enfant. Puis je les trouve admirables.
Mais là, c'est drôle parce qu'ils ont tous la même réplique. « Ouais, ben là, j'ai parlé au cardiologue, fait que finalement, je me rallie. Ouais, mais c'est parce que depuis 2023
ben,
que les cardiologues le disent. » T'avais vraiment besoin d'un appel téléphonique de deux minutes aujourd'hui, là?
Ce cardiologue-là fait œuvre utile, là, mais c'est juste...
Oui,
c'est ça, c'est pas facile.
Oui, mais c'est parce que, tu sais, comme tu le dis, il dit pendant... Il dit depuis 2023, puis pendant les cinq minutes qu'il a passé au téléphone aujourd'hui avec Mme Lacoyenne, ben oui, mais il est pas en train de faire autre chose non plus. À ce moment-là, tu sais, ce discours-là, on le connaissait. C'est du gossaillage.
Ah ouais,
En bon québécois, là, c'est de même qu'on appelle ça. Les 48-72 dernières heures pour les différents monsieur et madame qui ont essayé d'avoir le spotlight, comme tu disais, c'est du maudit gossaillage.
C'est ça.
Pour des parents qui ont accepté de vivre ça dans l'œil du public.
Mm-hmm.
un deuil qui devrait être privé, qui devrait être personnel, qui accepte de sortir, de parler haut et fort. Puis il y a encore de la politicaillerie, puis des hommes, des femmes qui décident de faire du gossaillage avec ça. C'est juste une bonne nouvelle, finalement, là, ce qui se passe là. On va voir le bon côté des choses, là. Mais heureusement que ça se termine comme ça, parce que si ça avait été différent, je pense que là, il aurait vraiment fallu se questionner davantage aussi comme société.
Vraiment, et en terminant pour le PCQ, vous êtes à 12 % dans les sondages, moins 1 par rapport au dernier sondage. C'est pas avec votre débat sur les boissons énergisantes que vous allez gagner des points. Antonin Iaccarini, c'est toujours un bonheur de te parler. On se parle demain.
À demain.
Yes, après la pause, on fait des nouvelles avec vous. Et Frédéric Beauchemin, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en économie, sera avec nous aux alentours de 12h45. On va parler avec lui de ce rapport de la vérificatrice générale concernant la filière batterie. Puis des sondages ne sont pas très favorables pour le Parti libéral du Québec. Restez avec nous.
Jusqu'à 14h.
Émission L'Enjase de ton mercredi 10 juin. Vous avez été plusieurs et vraiment plusieurs, puis vous êtes en feu depuis quelques semaines. Merci d'interagir au 418-971-1021. Vous avez eu beaucoup de réactions sur la filière batterie en disant « ben voyons, ça n'a pas de sens ce que le gouvernement avait fait. » On le savait, puis on vient de tirer 750 millions dans le feu. Donc, voilà. C'est fait, c'est dit, ce sera la première manchette et on a Frédéric Beauchemin aussi qui est en attente après les manchettes pour nous parler. C'est le porte-parole officiel de l'opposition officielle en économie.
Puis je veux pas aller trop loin, c'est ça, parce que, bon, justement, vu qu'on en discutait, mais qu'on va en discuter, mais tu sais, selon le rapport, là, il y a des aides financières qui totalisent 2,2 milliards de dollars qui ont été accordées à 11 projets sans analyse ni suivi suffisante des risques. Sur tout ce qui a été donné, ce qui est vraiment préoccupant, Jeff, c'est qu'il y a environ 700 millions de dollars qui ont été investis dans des entreprises aujourd'hui en faillite. Nordvolt, Lion Électrique, Recyclage Lithium, Moteur Taiga. Sur les 11 projets examinés, 6 sont jugés très fragiles et seulement 2 sur 11 ne représentent pas de problème majeur. Le rapport qui dit que les aides financières ont été approuvées sans la recommandation obligatoire du comité d'investissement, c'est près de 1,9 milliard de dollars qui ont été accordés par décret gouvernemental aussi. Fait que c'est sûr qu'on va vouloir approfondir ça un petit peu. Sinon, ce qui retient l'attention, le gouvernement de Christine Fréchette qui va relancer le programme de l'expérience québécoise pour une période de 2 ans. Aboli en 2025, le PEC permettait à certains étudiants étrangers et travailleurs temporaires d'obtenir plus rapidement leur résidence permanente. Pour son retour, avait été réclamé évidemment par plusieurs municipalités, organismes et groupes d'immigrants. On se rappelle que le maire, entre autres Bruno Marchand, était sorti haut et fort, était monté aux barricades à ce sujet-là. Le programme qui fonctionnera désormais en parallèle avec le PSTQ, tout en respectant les cibles d'immigration déjà fixées par Québec. Et j'ai envie de te parler de la Coupe du monde.
C'est demain 15h, premier match officiellement du Canada contre la Bosnie.
Demain, puis on a reçu un texto d'un auditeur un peu plus tôt à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias européens, mais beaucoup moins ici, en Amérique du Nord.
Oui, mais l'histoire d'un arbitre puis un photographe.
Photographe, arbitre, il y a beaucoup d'encre qui coule par rapport à ça en ce moment. Là, je vous parle de l'arbitre somalien Omar Artan, qui promet qu'il sera au rendez-vous de la Coupe du monde de 2030, malgré son exclusion du tournoi qui débute demain. C'est qu'il a été refoulé, lui, à son arrivée à Miami. Il affirme avoir été interrogé pendant 11 heures avant d'être renvoyé vers la Turquie. Les autorités américaines qui évoquent des liens avec des personnes soupçonnées de terrorisme, ce qu'il conteste. De retour en Somalie, il a été accueilli en héros par une foule de partisans, évidemment. Donc, on a le bénéfice du doute, malgré ce qu'on peut penser actuellement de la gestion des frontières par les États-Unis. On peut pas prendre ça à la légère quand même quand il y a des mentions de possibles liens avec le terrorisme. Mais pour l'instant, c'est sûr que l'arbitre, lui, tient son bout, comme on dit. J'espère qu'on va, au niveau journalistique, continuer à investiguer davantage pour vraiment mettre la lumière sur ce dossier-là. Puis j'essaierai de vous revenir avec les détails concernant le photographe un peu plus tard.
Puis j'aimerais savoir aussi, entendre le point de vue de la FIFA, parce que j'imagine qu'on doit faire quand même une analyse des gens qu'on envoie arbitrer à la Coupe du monde du côté de la FIFA.
C'était pas supposé s'appeler la Coupe du monde. Je pense qu'on voulait modifier le nom pour United Cup. Là. Il y avait quelque chose avec
Ou la Coupe des Amériques. C'était-tu ça contre Canada-Mexique? Je sais pas.
Je me souviens. T'sais, au moment où la CEUM est fragilisée là, actuellement. Fait que, t'sais, y a quelque chose de très, très désuni, finalement, je trouve, dans ces nouvelles-là. Fait que, t'sais, c'est sûr que c'est ça. Oui, effectivement, c'était un bon call de la part de l'auditeur qui nous a envoyé ça par texto. Puis je vais essayer de sortir l'histoire du télégraphe aussi.
Oui, on regarde ça, on suit ça pour vous. Évidemment, on va suivre tous les résultats au niveau de la Coupe du monde à chaque jour dans l'émission. On en jase. Vous rappelez, tant qu'à être dans le sport, que les Hurricanes de la Caroline l'ont emporté 5-3 hier contre les Golden Knights de Vegas. 2 buts pour le joueur de centre, Jordan Staal. 20 ans entre ces deux finales de la Coupe Stanley. Il est maintenant rendu à 38 ans. Il réécrit l'histoire. 4e match de suite avec au moins un but en finale de la Coupe Stanley. Il y a seulement 3 joueurs qui ont réussi cet exploit. Le dernier, c'est en 1982, le Québécois Michael Bossy. Tout simplement exceptionnel ce qui arrive avec le capitaine des Hurricanes. C'est jeudi le match numéro 5 de cette série. On va à l'instant discuter avec Frédéric Beauchemin, porte-parole en économie pour l'opposition officielle. Monsieur Beauchemin, comment allez-vous?
Ça va bien, vous autres, Monsieur Fortin?
Ça va très bien. Monsieur Beauchemin, sans surprise, la vérificatrice générale du Québec confirme que la filière batterie a été un véritable fiasco. 750 millions de dollars tirés dans le feu par la CAQ. Quelles sont vos premières réactions?
Bien, c'est malheureusement quelque chose qu'on s'attendait parce qu'on le voyait bien. C'est un gouvernement de marins en cavale qui n'ont jamais été capables d'être responsables. On parle ici dans le rapport d'une approche qui a été peu planifiée, qui n'a pas eu de suivi rigoureux. Il y a eu des dossiers qui ont été autorisés sans la recommandation du comité d'investissement. Je veux dire, en entreprise privée, là, OK, tout ce beau monde-là, là, il aurait été mis à la porte. En entreprise privée, là, ce gouvernement-là aurait fait faillite. Puis là, malheureusement, on n'est pas encore avec eux autres.
Oui, là, ça, on parlait beaucoup de François Legault, Pierre Fitzgibbon. D'ailleurs, il n'y a aucun ministre clairement identifié dans le rapport. Moi, ça me chicote tout le temps qu'on soit obligé de faire des commissions d'enquête pour savoir vraiment à qui revient la responsabilité. Ouais. On l'a vu avec la commission Galland. Ouais. Va-t-il falloir faire une commission d'enquête sur la filière batterie?
Ben, je peux vous donner la réponse tout de suite. Là. Ils sont tous responsables quand ils sont au Conseil des ministres parce qu'ils doivent approuver au Conseil des ministres tous ces investissements-là. Donc, ils sont tous coupables. Toute la gang là, que j'ai eue devant moi ce matin à la période des questions, là, ils sont tous responsables. Et Christine Fréchette, elle était à la table des ministres lorsque ces investissements-là, sans recommandation de le faire, sans recommandation d'y aller de l'avant, là, elle était à la table des ministres lorsque ça a été présenté. Et puis, on lui a posé la question, avez-vous émis une opinion? Avez-vous dit que vous étiez contre? Aucune réponse. Silence radio. Je m'excuse, mais ils sont tous aussi coupables l'un que l'autre.
On sait très bien que le Parti libéral du Québec ne serait pas embarqué dans la filière batterie. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises sur nos ondes depuis 3 ans, avec le fait que le Parti libéral du Québec pourrait former le prochain gouvernement. On fait quoi avec la filière batterie? On fait quoi avec nos entreprises? C'est quoi le plan de match?
La réalité, là, c'est qu'il y a eu des experts, des experts qui se sont prononcés, qui ont dit que dans certains des dossiers, fallait pas aller de l'avant. Malheureusement, la CAQ n'a pas voulu écouter ses propres experts. Ça, là, on parle de la filière batterie dans son ensemble aujourd'hui. Il y a un mois, on parlait de Nemaska Lithium. Je veux dire, le point de dénominateur commun dans tout ça, c'est que la CAQ n'a pas voulu, puis c'était une décision politique de vouloir y aller de l'avant. Alors, nous, on va se baser sur la science. Nous, on va se baser sur des faits. Nous, on va écouter les experts, puis on va faire des risques, si on en a fait, on va faire, qui vont être basés sur des recommandations d'investissement. Malheureusement, le gouvernement de la coalition Avenir Québec n'a pas fait ça. Est-ce que la filière batterie, aujourd'hui, est dans un piètre état? Je pense que même si Trump avait pas été là, OK, on aurait eu des mauvais résultats parce que la CAQ a ultra mal géré la filière batterie. Puis je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. La CAQ a décidé d'être partenaire avec des business qui n'avaient pas la capacité de payer. Non seulement il n'y avait pas la capacité de payer, la CAQ a décidé d'y aller de l'avant et d'investir leur moitié, leur responsabilité dans l'investissement. La CAQ a décidé de payer tout de suite avec des fonds publics, avec des partenaires quasi insolvables. Je veux dire, ça s'invente pas, là, ça. Là. Ça, c'est des décisions qui ont été prises sur un coin de table, puis ça a été décidé par le Conseil du ministre. Puis je le répète, Christine Fréchette était au Conseil des ministres lorsque ces décisions-là ont été prises. Elle est aussi responsable que toute la gang.
Monsieur Beauchemin, quand on va faire le calcul officiel à la fin du mandat, Parce que là, on parle de la filière batterie, évidemment, aujourd'hui, mais tu sais, je pense au fiasco Saclic aussi. Puis,
ouais.
Est-ce qu'on fait face au gouvernement, au pouvoir qui a le plus garoché d'argent par les fenêtres de l'histoire du Québec?
De l'histoire du Québec. C'est un gouvernement qui a gamblé avec l'argent des Québécois et c'est des dizaines de milliards de dollars en gaspillage. Puis spécifiquement par rapport à des investissements, on parle de plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards de dollars qui ont été gaspillés de fonds publics. Puis tantôt, je vous entendais parler de la liste des investissements, puis je pense que c'était votre collègue qui en parlait tout à l'heure. Je lis le rapport du VG devant moi. Là. On parle d'un total de 2,2 milliards de dollars qui ont été investigués, là, si on va dire, par la vérificatrice générale. Il y a 761 millions en pure perte. Il y a aussi un 90 millions de dollars, là, OK, qui c'est dans des projets qui ont été abandonnés. Donc, on va l'ajouter. Là, c'est juste que les comptables vont peut-être pas donner le rapport encore, là, mais on parle de 850 millions de dollars de pure perte. Puis, il y a aussi eu 1,1 milliard de dollars dans le 2,2 que je vous ai donné, donc la moitié de ça, qui est directement relié à des explosions de coûts associés aux investissements qui, dois-je le rappeler, là, n'avaient pas reçu l'aval du comité d'investissement que la CAQ a décidé d'y aller de l'avant pareil. Fait que c'est une gang de gnochons du début à la fin. Je ne peux pas concevoir que ces gens-là ont eu le culot d'investir l'argent, les taxes, les impôts des Québécois durement gagnés, puis qu'on a quoi comme résultat de ça? On n'a rien, malheureusement.
Ouais, donc c'est 1,1 milliard de dollars parce qu'en plus de ne pas faire l'analyse à savoir si ça va être rentable, on avait mal fait l'analyse aussi de combien ça allait coûter faire ces travaux-là. C'est ce que je comprends avec votre 1,1 milliard de dollars?
Exactement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait justement une approche planifiée, on n'a pas fait de suivi, on n'a pas pris en compte tous les risques qui étaient importants. La vérificatrice générale l'a dit, là, il y a eu des risques importants qui ont été non considérés. Ça s'invente pas, là. C'est la vérificatrice générale qui le dit. Il y a tellement de matière à mettre ce gouvernement-là à la porte. C'est inconcevable. Puis moi, ce qui me choque le plus, là, c'est qu'il nous regarde là, en ce moment, ce matin. Là, la première ministre nous dit « J'étais pas responsable de ça. C'était pas mon administration. C'était l'ancien gouvernement. Je m'excuse. » Elle était présente à la table des ministres. Elle a entendu aussi les avis d'experts qui n'ont pas donné de recommandations d'investissement puis ont décidé d'y aller de l'avant. Ils sont tous aussi coupables l'un que l'autre.
Monsieur Beauchemin, je vais vous poser sûrement la question la plus difficile de cet entretien parce que vous n'aurez pas le droit de répondre « on ne fait pas attention au sondage », d'accord? Moins 5 % pour le PLQ dans le sondage diffusé dans la presse aujourd'hui. Ça vous envoie quoi comme message?
Ça nous envoie le message qu'on se doit de continuer à faire le travail de terrain pour s'assurer de rentrer en contact avec toute la population dans son ensemble. Puis moi, j'ai le privilège maintenant de pouvoir représenter la circonscription de Brome-Issiquoi, l'endroit où j'habite depuis 2004. Donc, pour moi, c'est un privilège de pouvoir être sur le terrain. Et j'ai donc hâte là, qu'à partir de samedi, on va être sur le terrain. Et justement, ça va être une poignée de main à la fois, un électeur à la fois, qu'on va être capable de pouvoir faire en sorte qu'on va gagner le 5 octobre prochain.
Donc, vous avez confiance qu'en étant sur le terrain avec un Charles Milliard, vous allez pouvoir remonter. Est-ce que vous avez des choses à clarifier, par exemple, la langue française? Ça reste brouillon pas mal au Parti libéral, ça.
On est en train de justement tout faire pour s'assurer que d'ici le 21 juin, on va pouvoir présenter notre plan de match. Puis vous allez voir, nous, ce qui est important là-dedans, là, ce qui est vraiment important dans tout ça, là, c'est que les Québécois, la culture québécoise, notre langue française qui est chère, qui est la nôtre, là, qui puisse être protégée, puis vraiment bien soutenue. Puis ce n'est pas en bloquant l'accès aux Québécois de pouvoir être éduqués. Ce n'est pas en empêchant les minorités d'avoir des droits à eux. Ce n'est pas en faisant mal à d'autres qu'on va se faire relever. Au contraire, ce qu'on doit faire, c'est justement s'assurer qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour faire rayonner notre culture. Ça, là, c'est un levier important. Puis il n'y a rien de tout ça qui a été fait par la CAQ. Nous, on va travailler là-dessus. Puis c'est une approche, justement, de construction vers l'avenir. Alors, on va le faire en économie, on va le faire en culture, on va le faire en santé, on va le faire en éducation. Ça va être une poignée de main à la fois et j'ai très hâte d'être sur le terrain pour pouvoir livrer la marchandise.
Vous parlez du terrain depuis quelques minutes, là, M. Beauchemin. Puis, tu sais, quand on parle d'économie, parce que c'est ça votre tasse de thé quand même, quand on parle d'économie sur le terrain, justement, ce qu'on entend, ben, c'est que les gens ont de la misère à arriver, que tout coûte de plus en plus cher, que c'est difficile de payer son loyer, d'être capable de faire l'épicerie. Si vous gagnez les élections, le Parti libéral,
à l'automne prochain. C'est quoi la première décision économique qui va être prise par le parti?
La première décision économique qu'on va faire, c'est de s'assurer justement qu'on fasse augmenter les revenus de tous. Puis ça, je vous le dis tout de suite, là, OK, on va avoir des mesures plus précises qu'on pourra annoncer en cours de route, mais il faut que tout le monde comprenne, OK, tout le monde doit comprendre la chose suivante. L'économie doit être au rendez-vous. Puis pour ce faire, il faut qu'on tasse le gouvernement qui empêche nos PME, le cœur de notre économie, d'avancer, puis de pouvoir gagner des parts de marché, de pouvoir faire des ventes, de pouvoir gagner à l'extérieur du Québec, pour faire en sorte que nos PME puissent grandir, trouver le prochain Couche-Tard, encourager le prochain Bombardier. Ça, là, OK, c'est important parce qu'avec ça, va venir des meilleurs revenus, avec ça, va venir des meilleurs salaires, avec ça, va venir une augmentation du pouvoir d'achat. Puis les gens vont être capables de se payer plus facilement les paniers d'épicerie qu'aujourd'hui, on en arrache parce qu'on n'a jamais eu de vision de développement économique de la part du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Pour nous, la priorité numéro un, c'est de s'assurer que l'économie est en croissance et nous, on va tout faire pour que ça arrive.
Mais là, donnez-moi un peu de chair autour de l'os. Là, je comprends que vous voulez vous garder des nouvelles, évidemment, parce qu'on est en campagne, là, où la campagne va partir là, officiellement pour vous. Mais mettons là, un exemple, c'est qui le prochain Couche-Tard? En avez-vous déjà un dans le giron, le Parti libéral, d'un potentiel prochain fleuron comme celui-là qu'on pourrait justement aider, qu'on pourrait backer, comme on dit en bon français libéral, pour aider économiquement à faire rayonner le Québec puis à permettre justement à l'économie de rouler davantage, autant ici qu'à l'international?
Bien, je vais vous donner des indices. OK? Il y a le secteur manufacturier qui est extrêmement important au Québec, qui, malheureusement, sous la CAQ, a perdu énormément de terrain. Puis on le voit là, tout partout à travers la planète. Les secteurs manufacturiers, autant aux États-Unis, puis on sait bien, là, Trump fait tout pour essayer de l'augmenter, qu'en Europe, OK, les gens font la défense de leur propre secteur manufacturier pour le faire augmenter. Bien, au Québec, la CAQ l'a abandonné. Fait que ça va être un secteur. Puis là-dedans, il y a plusieurs joueurs. Puis je peux juste penser à Marmène, là, qui fait des pannes, des tours d'éoliennes, qu'on a décidé de pas mettre dans des processus d'achat de parcs de développement éolien. Parce que ça coûtait moins cher d'acheter chinois. Là. Je dis honnêtement, on se doit de vraiment avoir une politique Québec d'abord, puis ça va être essentiel. C'est quelque chose comme ça qu'on va le faire. Mais d'autres facteurs extrêmement importants pour faire qu'on va pouvoir avoir un prochain Couche-Tard, un prochain Bombardier, il faut penser à l'innovation. Il y a plusieurs PME, là, des startups, il y en a effectivement, mais il y en a qui ont déjà un track record, qui sont capables de démontrer, qui sont capables de générer des revenus, qui sont innovants. Bien, ceux-là, puis je ne ferai pas leur publicité sur les ondes aujourd'hui, là, mais ceux-là, elles sont en ce moment là, en train d'être sur le bord de donner des champions et des championnes. On se doit de s'assurer que ceux-là puissent être aidés, que ce soit simplement par l'achat du gouvernement du Québec, de s'assurer qu'elle passe en premier. Là. On ne donnera pas une carte blanche pour qu'ils puissent nous charger 50 plus cher que le voisin, là. Mais on va s'assurer d'une affaire, c'est que minimalement, là, à prix égal, on va les choisir en premier. Puis ça, là, ça va être la politique Québec d'abord du gouvernement libéral.
C'est plus de chair autour de l'os.
Pas pire, hein?
Puis par start-up, je pense que vous vouliez dire entreprise en démarrage.
Oui,
hein,
c'est ça. Oui, parce que je
vous agace.
Non, mais c'est parce que justement, là, on a conscience, vous êtes au Parti libéral, donc on vous aide avec la langue française. On vous agace. Monsieur Beauchemin, je vous laisse aller. Ça va être vote sur les boissons énergisantes. Allez voter pour ce projet de loi.
Ça marche. Bonne journée à tout le monde.
Merci, au revoir. Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en économie. Ça fait plusieurs fois qu'il nous parle sur nos ondes, autant le matin que le midi. C'est un gars qui est vraiment en contrôle là, de son dossier.
Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question, parce que je l'ai déjà entendu en entrevue. Puis c'est le fun d'avoir la chance dans notre métier de s'entretenir avec des hommes, des femmes politiques. Puis je trouve ça le fun quand tu poses une deuxième question qui veut dire la première était floue, donne-moi un petit peu plus de détails, puis qui m'arrive, puis que finalement ils se commettent, puis qui nomme un Marmène, effectivement, en disant on a cette entreprise-là ici qui en fait des éoliennes. Puis c'est drôle parce qu'Antonine parlait des éoliennes il y a quelques minutes à peine, puis à quel point ça coûte excessivement cher à en faire, mais c'est une utilisation de l'énergie qui, effectivement, peut être fort intéressante. Je comprends que personne ne va avoir un gros ventilateur blanc dans sa cour. C'est tout à fait normal. Je serais le premier, moi aussi. Mais là, je trouve qu'on avait un exemple concret avec, contrairement à la filiale batterie,
vraiment.
Là, on a des entreprises qui investissent déjà, qui sont déjà dans ces secteurs d'activité-là. Pourquoi on est obligé de commander en Chine? Bien, parce que ce qu'on produit ici est d'aussi bonne qualité, mais le rapport qualité-prix fait en sorte que c'est beaucoup plus cher. Fait, comment on fait pour les backer financièrement pour qu'on puisse être compétitif?
Puis c'est un beau 2-1. Avec le fait qu'on faut développer notre filière énergétique également.
Ben oui.
On a toujours été des chefs de file, Jeff, en énergie avec l'hydroélectricité.
Ouais.
On est à une époque où est-ce qu'on a deux choix. Soit on continue à être en tête, ou soit on devient BlackBerry.
Mm-hmm.
Tu comprends l'exemple
je comprends
que je te
très
donne?
Bien.
BlackBerry ont été les premiers à présenter des téléphones intelligents, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a échappé dans la courbe.
C'est ça.
Complètement.
Là, Sears c'est a Apple fait... qui a pris le... Qui a justement pris le dessus.
Ben oui, Sears a fait la même affaire à une certaine époque.
Les Zellers.
Ça a été la première compagnie à envoyer un catalogue puis à dire aux gens, on va te livrer ça chez vous.
Ouais.
Exactement comme Amazon fait aujourd'hui. Faut juste pas l'échapper dans
la
courbe.
On n'a pas suivi la technologie du côté de Sears.
C'est en aidant ces entreprises-là qui décident d'y aller tête baissée puis de se dire, on est capable de faire ça ici, puis en les aidant effectivement, plutôt que d'acheter des terrains vagues puis de financer des entreprises peut-être de l'extérieur, travaillant avec nos têtes pensantes ici. Je vous dis pas que je suis libéral, loin de là, puis ma décision, honnêtement, avec toi pour l'automne est loin d'être prise en ce moment.
Ah, moi non plus, elle n'est pas prise du tout.
Je suis vraiment pas fixé. Mais le discours de M. Beauchemin, je trouve que ça se tient, je trouve que ça a du sens. Puis effectivement, je pense qu'avec ce qu'on a vécu dans les dernières années au niveau de l'investissement de notre gouvernement provincial, il faudrait peut-être plus y aller avec un plan comme celui-là pour se doter de quelque chose de plus tangible pour l'avenir.
Vraiment. Je suis très, 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 très d'accord avec toi.
À Boulevard, ça, on en jase.
À l'émission d'En jase, on parle avec des politiciens. Puis on parle également des sujets de société qui vous touchent. Et vous le savez, je suis très pro-protection des femmes dans notre société. Et c'est pas nécessairement protection parce que je trouve que les hommes sont supérieurs aux femmes. Bien au contraire, je veux l'équité entre hommes et les femmes. Je suis quelqu'un qui traite très bien les gens dans la société, que ce soit des enfants, des adolescents, des femmes ou des hommes. Et là, Nate, je vais te dire bien honnêtement, le poil m'a frisé ses bras un matin à mon lever quand j'ai vu que le nombre d'accusations en lien avec des conditions non respectées par des accusés de violence conjugale a presque triplé en 8 ans. Fait que ça veut dire que, premièrement, tu fais une première offense.
Mm-hmm.
Donc, tu fais de la violence conjugale,
mm-hmm,
envers ta conjointe ou ton ex-conjointe, parce qu'on le sait tous, ça arrive malheureusement. Les gars pognent les nerfs, puis pètent les plombs, puis ils l'échappent complètement parce que la fille se dit « Sais-tu quoi? Je t'aime plus. Mm. » Puis ça arrive, ça, de plus s'aimer. Puis ça arrive de retrouver l'amour. Prends Justin Trudeau, crime. Il l'aime plus, sa Sophie, mais il l'aime, sa Katie.
Ben
il
oui.
caresse même la fesse en public. Fait que tu vois, on dit qu'on est dans sa crise de cinquantaine et tout ça, mais ça arrive à n'importe quel âge. Mais tout ça pour dire que, tu sais, faut vraiment que les hommes se contrôlent. Parce que ça n'a aucun sens, les statistiques, OK? Je te les nomme rapidement. En 2018, il y avait au total 28 811 infractions qui avaient été commises par rapport à des bris de probation. Donc, je suis en liberté conditionnelle. J'ai à me rendre chez la personne qui me suit, qui me surveille une fois par semaine. Puis à un moment donné, un vendredi après-midi, je suis parti sur la brosse. Je me suis pas rendu. Fait que la police est venue me chercher. Puis elle m'a dit, « Ah ouais, en dedans, man, ça a pas fonctionné.
Mm-hmm. »
Je suis un violent conjugal. Je peux plus communiquer avec mon ex. J'y envoie plein de textos pour lui dire, « Pardonne-moi, pardonne-moi, reviens avec moi. Ce n'était qu'une fois. » Bon, ça fait partie de ces accusations-là. Excellente nouvelle, OK? En 2025, on est passé de 28 811 infractions pour bris de probation, de conditions, à 22 903. Donc, c'est une diminution de 6 000
bon.
Cas. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Ça veut dire que gars, filles, tu sais, on les met tous dans le même paquet à ce moment-là. Ça veut dire que les gens ont compris. Ils ont des conditions respectées. Ils ont une probation. Ils n'ont pas le choix de respecter. Puis, il le respecte de plus en plus.
Ouais.
Fait que ça veut dire que notre système de réhabilitation, ben moi, je vois de quoi d'hyper positif là-dedans parce que je me dis, hey, si la gang qui est en liberté conditionnelle respecte de plus en plus les conditions, ça veut dire que notre thinking de dire on est capable de réhabiliter les gens fonctionne. Parce que sinon, on aurait une explosion.
En principe, oui, effectivement.
OK.
Si on suit les chiffres, oui.
Oui. Bon, là, maintenant, les violents conjugales, il va falloir les mettre en prison et les laisser là. Parce qu'on est passé de 4193 infractions en 2018 à 11218. Fait que maintenant, la moitié des bris de conditions ou de probation sont pour de la violence conjugale.
Fait que la réhabilitation fonctionne dans le système, mais ceux qui répondent le moins, c'est les cas de violence conjugale.
Exactement. On est passé en pourcentage de 15 % en 2018 des infractions qui concernaient la violence conjugale à 49 %.
C'est quand même incroyable.
C'est fou.
C'est quand même incroyable. Est-ce que tu penses que il y a une part des... une part des réseaux sociaux là-dedans, qu'il y a une part de... Tu sais, on entend beaucoup parler, parce que là, je comprends que c'est des bris de conditions. Là.
Oui.
Fait que c'est des gens, comme tu disais, il y a eu une première offense. Mais il suffit qu'il y ait eu une première offense et qu'il y en ait une deuxième, pouf, on est en bris de conditions. Oui. Pas besoin de te rendre à 3, 4, 5, 6, 10.
Non, exactement.
C'est deuxième offense, pouf, t'es en bris de conditions, automatiquement. Mais avec ce qu'on voit circuler de plus en plus sur les réseaux sociaux dans les derniers mois, dans les dernières années, la montée des masculinistes, des mâles alpha, puis de... est-ce que c'est... cas de violence conjugale-là continuent à se laisser convaincre, même s'ils sont actuellement accusés et qu'ils ont des conditions à respecter, se laissent convaincre par les réseaux sociaux de « Non, non, finalement, c'est pas le système, c'est moi qui ai raison, calique, garde. »
C'est clair.
Il dit la même affaire que moi, lui, puis il y a des milliers de followers, puis il y a plein de gens qui l'écoutent puis qui le suivent un peu partout, Québec, en Europe ou peu importe, partout sur la planète.
C'est clair. Moi, j'ai entendu des jeunes... à l'heure actuelle que je coach au hockey, appeler leur blonde ma femme. Je dis, pas ta femme.
C'est pas des types.
C'est Amélie.
Oui, c'est ça.
C'est Julie.
C'est ça.
C'est Sarah.
C'est ça.
Pas ta femme. Ma... elle t'appartient pas.
Ma déjà,
femme.
Ma
aussi. Ma femme. Ça, évidemment, il y a beaucoup d'influence aussi de YouTubeurs français.
Français, oui, c'est ça. Ma femme, ma meuf, comme ça. Ma... bon,
mais d'ailleurs, tu sais, je pense que la France a beaucoup à apprendre sur l'égalité homme-femme de nous au Québec, de ce qu'on a à apprendre
oui.
d'eux. Là,
oui, effectivement.
Quand on regarde des gars comme, comme des cas comme Gisèle Pilco. Mais oui, il y a ça. Puis il y a une autre chose aussi, parce que j'ai parlé avec des gardiens de prison à la prison d'Orsainville.
OK.
Le problème, c'est que ces gars-là, il y en a tellement qui sont en prison, puis il y en a tellement qui veulent leur casser la gueule, qu'on les met toutes dans la même aile pour les protéger. Fait que là,
ils se craignent entre eux autres. Ils se donnent raison.
Ah ouais, parce qu'elle est maudite bonne femme. Ah ouais, t'as la faute. Fait que là, quand le gars, il sort de prison, là, qu'est-ce qu'il a en tête? La maudite bonne femme.
Ouais.
Elle me fait chier. Elle m'a envoyé en prison. Ben, quand? C'est à mon tour de la faire chier.
Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, il y a déjà quelque chose, il y a un lien, il y a un déclic là, qui se fait pas comme tout le monde, là, comme
exactement.
Le commun des mortels, OK? Ça excuse pas les gestes, là, qu'on
ben
prend
non,
bien
non,
loin
non.
de là, au contraire. Là, dans le... Mais il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, OK? Bon, je vais le dire de même. Sauf que ces chiffres-là aujourd'hui, la crainte que moi, j'ai, Jeff, par rapport à ça, c'est que il y a encore plus de femmes... Puis là, je prends les femmes en exemple, mm-hmm. Je comprends que ça peut être des hommes aussi, mais... J'y vais de façon générale, là. J'ai peur qu'il y ait encore plus de femmes qui se disent « Ben, ça vaut pas la peine, de toute façon, de le dénoncer. » Parce que, regarde, même si je le dénonce, puis même s'il est accusé, les probabilités qu'il revienne sont à presque 50 % de toute façon.
Exactement.
Il va revenir contre moi de toute façon.
Ben oui.
J'ai peur que ça décourage encore plus les gens à porter leur cause devant le système de justice.
Je suis tellement d'accord. Fait que moi, c'est pour ça que ce que je prône, puis 418-971-1021, vous êtes plusieurs à réagir, puis vous me dites tout, hey, voyons donc, les stats, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe avec nos hommes? On parle aussi de violence psychologique des femmes envers les hommes. En effet, ça existe. Plus petite proportion que la violence conjugale, on pourra y revenir dans un autre micro. Mais c'est pour ça, moi, ce que je prends, c'est de dire « Hey, OK, là, toi, là, t'as fait ça, là, en dedans. Puis si t'as à sortir, c'est une thérapie. Tu restes dans ta thérapie, tu la finis, puis après ça, on te fait une évaluation psychologique, puis on regarde si tu peux sortir. »
Oui, parce que
là, nos femmes sont en danger.
Ben oui, les femmes sont en danger. Puis tu sais, je pense que les deux, là-dessus, on est encore d'accord. Tu sais, la réhabilitation, c'est prouvé scientifiquement... que ça fonctionne mieux essayer de réhabiliter les gens dans n'importe
c'est
quelle
clair.
Société. Que... Fait qu'on dit pas qu'il faut fermer la porte complètement, mais à un moment donné, c'est sûr que, comme n'importe quelle règle dans
non,
vie,
mais là...
si tu comprends pas la leçon une première fois, faut qu'on te l'explique une deuxième fois. On peut pas se rendre à une deuxième pas une troisième
ben
fois
non.
parce que dans des cas comme ça, ça peut être fatal.
Ben dans des cas comme ça, ça fait des Gabi Renault.
Ben c'est exactement ça. Puis là, c'est là l'enjeu. C'est qu'on peut pas niaiser avec ce genre de choses-là parce que ça peut être critique, ça peut être fatal. Ça peut être la dernière fois que tu fais un bris de condition parce que la personne
oui.
devant toi va être une victime pour elle aussi la dernière fois. On...
Exactement. Il faut que
c'est
les
ça.
Hommes
on peut pas niaiser
comprennent
avec ça.
Que on te met en prison, on te fait suivre une thérapie, on te fait un examen psychologique pour savoir si tu peux ressortir ou si tu restes dans une maison de transition ou si tu retournes
oui.
en prison.
Ben oui.
C'est pour toi aussi qu'on le fait parce que tu veux pas devenir le meurtrier
ben c'est ça.
De Gabi Renault.
C'est ça.
T'sais, tu peux pas devenir ce gars-là.
C'est une façon, même si tu le comprends pas, c'est ça, comme tu dis.
Moi,
tu
le faire comprendre.
Ben, puis c'est une façon de t'aider.
Ben oui,
c'est ça, tu le comprends
pas. On a cette responsabilité-là en tant que société, en tant que système, en tant que gouvernement, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que père,
oui.
De prendre un gars violent et de dire, hey, viens-t'en là. Ça va être rough, tu vas passer par le bout rough, mais quand tu vas ressortir de là, là, tu vas être quelqu'un qui va bien te comporter en société.
Puis j'ai l'impression qu'à partir du moment où est-ce qu'on fait cet exercice-là, si la personne ne comprend vraiment rien, ça arrive, là. Il y en a, là, des gens comme
ben
ça.
Oui.
Il y
ben
en
là,
a des
touche,
gens qui...
touche pas à la société.
Ben à partir de là, c'est ça. T'sais, à partir de là, c'est juste... on pourra pas te libérer.
Non.
Tu pourras pas retourner te promener dans les rues. Mais au moins, nous, comme société, on a fait l'exercice complet de faire « Regarde, t'as pas compris,
on
va
te
prendre. » On a fait tous les efforts possibles et impossibles. Puis... un n'empêche pas l'autre. Ça se peut que tu retournes
ben
sur
oui.
le marché du travail. Ça se peut que tu sois capable de te refaire une vie parce que maintenant, le déclic s'est fait puis tu as compris. Mais jamais, au grand jamais, faut que des chiffres comme ça
ben
sortent puis qu'on soit à près de 50, 49
parce que t'imagines, là, ça, ça veut dire...
c'est épouvantable.
Puis on va conclure là-dessus, mais ça, ça veut dire qu'il y a 11 218 victimes potentielles de devenir des Gaby Renaud en 2025 parce que c'est des récidivistes. Quand tu récidives, ben tu le sais comme moi, la violence, là, tu pars jamais ta violence à ton maximum. Tu pars toujours à un certain niveau. Mettons, sur une échelle de 1 à 10, tu vas la partir entre 1 et 4, moi je dis. Mais là, quand elle augmente, toi, t'es rendu à 6. Puis là, quand elle augmente encore, t'es rendu à 8. Puis là, t'arrives à 10.
Puis c'est pas juste qu'on peut pas le voir autrement, ce chiffre-là, Jeff. C'est qu'il faut pas le voir autrement.
Ben non, du tout.
Il faut pas le voir autrement que ce sont effectivement de potentielles victimes. Puis en disant ça, aujourd'hui, on a un micro d'en face. Puis tu sais, il y a peut-être des gens qui écoutent. Puis je comprends que ça peut faire peur, là. Mais en même temps, on peut pas se mettre la tête dans le sable. Puis je veux juste en profiter parce que quand on fait ce genre de micro-là, tu sais, c'est important pour nous aussi de le rappeler. Tu sais, si jamais ce qu'on dit là, ça vous sonne une
oui.
cloche, puis vous avez l'impression que autant vous ou quelqu'un autour de vous, il y a le SOS violence conjugale 24 heures sur 24,
très bon point.
7 jours sur 7. C'est le 1-800-363-90-10. 1-800-363-90-10. Ou encore, vous avez l'adresse courriel, le SOS à commercial sosviolenceconjugale.ca. Mais même si ces chiffres-là aujourd'hui nous démontrent qu'on a encore un travail à faire comme société, niaisez pas, s'il vous plaît, prenez le téléphone. Si vous avez le moindre doute que vous vous sentez en danger ou qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en danger autour de vous, appelez, s'il vous plaît, 1-800-363-90-10.
Au retour de la pause, on parle avec Nina Duc. C'est une spécialiste des pratiques numériques chez les jeunes et doctorante en communication à l'UQAM. On avait reçu Andréane Gagné, si je me souviens bien son nom, lundi,
oui.
de l'Université Laval.
Oui,
elle était pour, justement, l'interdiction des médias sociaux pour les jeunes. Interdiction qui devrait être présentée par le Parti libéral du Canada à la Chambre des communes cet après-midi. Mais Mme Duc, elle, est contre. C'est ça qui est le fun à Boulevard et à l'émission dans Jazz, c'est qu'on présente les deux côtés de la médaille.
Parfait.
Nina Duc, au retour de la pause.
102-1.
h 20, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102-1. C'est l'émission dans Jazz avec Jeff Fortin et Nathan Meilleur. Vous êtes maintenant au bureau blvd.fm. C'est notre web radio, c'est nos meilleurs moments qui s'y retrouvent. C'est une bonne façon de nous écouter. Sinon, télétravail, le haut-parleur intelligent, vous êtes écouté BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. À la météo, je vous le rappelle, c'est 28 degrés, 30 % de possibilité d'averse. Et on dirait que le brouillard s'est dissipé un peu net à l'extérieur, mais il y aura des nappes de brouillard ce soir au cours de la nuit. 29 degrés demain. Avec seulement 30 % de possibilité d'averse. Hey, avec l'humidex demain, ça va être 37 degrés ressentis.
C'est parfait, ça.
Ah, mais hein, vive l'été!
C'est tellement court comme période. Il y a des gens qui n'aiment pas ça avoir chaud. Je fais partie de ces gens-là. Je ne tripe pas tant que ça. Je suis un gars d'hiver quand même, beaucoup.
Ouais.
J'aime beaucoup les sports d'hiver et tout ça. Mais très tôt ce matin, je passais ma tondeuse. Puis l'eau me coulait dans le front, puis j'étais comme « Yes,
ça, c'est
ça y est, là. On est là, là. » Dans
ah,
le...
oui.
C'est parce que je travaillais à midi, parce que j'entendais au loin « Corona!
Eh, mais
Corona! »
Vois-tu, dimanche, j'ai semé du gazon chez moi, puis quand je suis sorti, justement, dehors, vers 1h, 1h15, le soleil faisait chaud. Je regardais Val, et j'ai dit Hey chérie, tu prendrais-tu une petite Corona? Elle m'a dit, OK, oui. Chlouk! Ah, on ouais. a débouché ça, on ah, a ouais, travaillé non. dehors.
Ben,
ah,
oui.
C'est le bonheur.
C'est si court
total.
Comme période. Profitez-en. Profitez-en.
Ah, mais en, profitez de l'été. Ben, oui. Écrivez-nous aussi si vous voulez nous écrire 418-971-1021. C'est quoi votre bonheur estival? Nate, énorme journée d'actualité, mais pas le choix de commencer les nouvelles avec. Les boissons énergisantes, là, on a-tu réglé ça, là, ce dossier-là? Là,
là tu vois, le projet de loi qui, du moins, parce qu'on suit ça là, d'un œil attentif, là, l'Assemblée nationale en direct... Non, ça, c'est autre chose. Mais bref, ce qu'on sait, c'est que le projet de loi qui va interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans a franchi une étape décisive à Québec. Tous les élus de l'Assemblée nationale ont accepté la procédure accélérée qui va permettre l'adoption d'ici la fin de la session, même si certains députés indépendants demeurait critique. Ils ont choisi de ne pas bloquer le processus. Le dossier a notamment été porté par les parents de Zachary Miron, évidemment, ce jeune homme qui est décédé après avoir consommé une boisson énergisante en combinaison avec son médicament pour le TDAH. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on a arrêté...
Vraiment.
De gossailler, comme je disais tantôt.
Oui, c'est ça. Excellente nouvelle. On va parler avec Pierre Dufour, un député indépendant, justement, un des gossailleux de projet de loi qui s'était rallié ce matin. On va regarder pourquoi il s'est rallié. Puis on va aussi parler avec lui, là, évidemment, de la filière batterie.
Il y a le procès de l'ancien porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, qui a été suspendu jusqu'à jeudi. Finalement, la défense a demandé un ajournement après avoir reçu un complément de preuve de la poursuite. Au cœur du débat, il y a des photographies qui pourraient avoir un impact sur la chronologie des événements allégués. Claude Doiron, qui fait face à des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels sur une mineure, il conteste les accusations et bénéficie évidemment de la présomption d'innocence au moment où on se parle. Et la Ville de Québec, qui estime que le chantier du tramway lui fera économiser plus de 300 millions de dollars en travaux d'aqueduc et d'égout. Comme les infrastructures souterraines doivent être déplacées le long du tracé, le gouvernement du Québec assume une partie importante des coûts. Donc, selon la Ville, ces travaux permettront non seulement de moderniser les réseaux vieillissants, mais aussi de mieux les adapter au changement climatique. Le maire Bruno Marchand y voit donc un gain concret pour les citoyens.
Au sport, est-ce que tu écoutes la finale de la Coupe Stanley, mon cher Nick?
J'ai écouté un match hier.
C'était bon, hein?
C'était excellent. J'ai eu de la misère à...
Rapide.
Écoute, je vais te raconter une tranche de vie.
Ben, vas-y.
C'est parce que... En plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Tu sais, quand on est père, hein?
Oui.
Parce qu'on a des jeunes enfants. Oui. Qu'on a... Hier, j'étais fier. J'étais tellement fier parce qu'à un moment donné, mon plus vieux est couché dans le lit. Puis là, il me dit, c'est combien la série, tu sais? Fait que là, je sors mon téléphone vite, juste pour lui montrer deux, trois statistiques, tu sais. Puis là, à un moment donné, il me regarde puis il me dit, c'est les deux gilets les plus laids de la ligue.
OK, oui.
Puis là,
ça, il n'y a pas de doute.
Oh, hey, coco, ça, là. Fait que finalement, je sors de
quoi
la chambre.
Quoique l'Avalanche Colorado, je le trouve lettre quand ils ont leur culotte bleue, là, avec
ah,
ça.
Ah, les culottes bleues aussi, ça, c'était
c'est
particulier quand même,
lit.
Là. Mais, tu sais, puis il y en a plus d'un, là. Mais je pense que, tu sais, avec le Canadien de Montréal, entre autres, tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'équipe, c'est un logo qui a traversé le temps, qui a traversé l'histoire. C'est des couleurs qui sont intemporelles.
Ben,
c'est
les...
un des plus beaux logos de la ligue, tu sais.
Je te dirais, les équipes. Original 6.
Oui, oui, c'est ça.
Ils sont dans les plus beaux chandails canadiens. Maple Leaf, il est de toute beauté.
Maple Leaf, il est beau.
Les Blackhawks de Chicago.
Les Blackhawks, c'est magnifique.
Les Red Wings, les Rangers.
Boston, il est beau aussi, l'original Boston.
Les Original 6 sont vraiment bons. Mais on dirait qu'il y a eu une mode à un moment donné où on essaye de réinventer la façon de faire un gilet au hockey, dont celui des Hurricanes, puis c'est complètement raté.
Tu sais, les Hurricanes, c'est ça. Tu sais, je comprends que c'est le drapeau aussi qui est utilisé justement quand on annonce une tempête, puis tout ça. Mais là, je sors de la chambre finalement, puis je fais juste dire à ma blonde, je fais, hey, je suis comme un peu fier, tu sais. Je trouve que les deux gilets de la sont lettres, ces gilets de colle qui sont là, puis les couleurs sont là, puis les gants blancs des Golden Knights.
C'est drôle, tu m'as parlé de ça, puis hier, ils m'ont encore plus sauté au visage. C'est vrai que c'est lettre.
L'espèce de gilet, tu sais, il est pas juste jaune, là, il est vraiment brillant, là, il est vraiment gold, là, dans le. Puis ma blonde finalement me dit, ouais, mais c'est parce que c'est toi qui passes ton temps à dire ça. C'est parce qu'il fait juste répéter ce que t'as dit, tu sais, dans le. Mais bref, hier, j'ai pris la peine d'écouter un match parce que honnêtement les Canadiens, vu qu'ils se sont rendus loin, on rajeunit pas personne.
Ben
j'ai trouvé ça tough, les matchs à 8 heures.
Ben oui, c'est tough, certain.
On se couchait tard, j'ai l'impression que là, je reprends un peu le dessus sur la série.
Sûr.
Mais c'est tellement du gros hockey, honnêtement, Jeff. J'avais l'impression que la patinoire était plus petite que d'habitude.
Ah, oui.
Ça va tellement vite.
C'est fou.
Ces deux équipes qui se tiennent tête, là, c'est vraiment beau à voir.
Et la précision des passes des deux équipes, là, le jeu en contre-attaque est toujours rapide parce que la passe est directement sur la palette du joueur qui est en accélération en zone offensive. Les passes n'ont juste pas de sens. D'ailleurs, hier, Brendan Boozy t'a fait une arrêt en fin de troisième période sur Jack Eichel. Quelle passe de Mitch Marner. Entre quatre patins, deux bâtons, elle arrive direct à la bonne place
direct
pour
sur
Jack
le tape.
Eichel.
Alors, on dirait qu'il y avait un aimant.
Ah oui, si vous n'avez pas encore écouté de match dans cette finale de la Coupe Stanley-là, écoutez jeu du soir, tout simplement. Tu, des fois, le jeu de redis, on s'en permet un petit peu plus.
Ouais.
Là.
Ouais.
Une petite beer, on regarde, on se couche un petit peu plus tard parce que ça vaut vraiment la peine. Mon père, qui écoute religieusement tous les matchs de hockey, m'a texté hier pour me dire « Sais-tu quoi? » Et je pense que c'est une des bonnes finales de la Coupe Stanley que j'ai vues dans ma vie. Puis ça m'a fait réfléchir. Puis je me suis dit, quelle autre finale de la Coupe Stanley j'avais trippé comme ça? Bruins Canucks de Vancouver, à l'époque où les Bruins avaient battu les Canucks en 7.
Okay.
A été une série finale que j'avais appréciée. Puis je vais regarder la. Je vais regarder l'année. Mais ça s'était terminé en 6, mais c'était tellement bon. C'était physique, c'était rapide. C'était les Bruins de Boston contre les Blackhawks de Chicago et c'est en 2013. Les Blackhawks avaient remporté la série 4-2. Là, c'était à l'époque de Jonathan Toews à son apogée, puis de Patrick Kane également. Les Bruins avaient pris les devants 2-1 dans la série. Là, les Hawks avaient répliqué avec une victoire de 6-5 en prolongation. 3-1 et 3-2 finalement pour remporter le sixième match avec deux buts dans la dernière minute. T'imagines, les Bruins pensaient pousser ça au match 7 et les Hawks s'étaient sauvés avec la Coupe Stanley en plein Garden de Boston en 2013. Pour moi, c'était vraiment une série d'anthologie. Puis ça m'a rappelé aussi 2009 quand j'ai vu Jordan Staal avec sa Coupe Stanley dans les mains quand il était un kid. Ça, c'est les Pingouins qui surprennent les Red Wings en 7. L'arène Marc-André Fleury en fin de match qui se tire sur le côté contre Nicklas Lidström.
Ça, je me souviens de ça aussi. Ouais, vraiment. Puis tu sais, Staal, c'est quand même assez particulier aussi, tu sais, le 20 ans entre les deux finales, ça, c'est historique, tu sais, dans la Ligue. Mais moi, c'est vraiment quand j'étais jeune aussi, tu sais, je me souviens, même si j'étais pas vieux, des images, justement, de la finale avec Patrick Roy, qui était pour les Avalanches du Colorado. C'était Van Bisbrook qui était le goaler des Panthers de la Floride.
Les Ross à la patinoire.
C'était incroyable, ça. Puis te souviens-tu? Je l'ai googlé parce que je me souviens plus, mais c'est la dernière Coupe Stanley de Mike Modano. En 99 avec les Stars de Dallas.
Que c'était beau!
Ça aussi, ça avait été une méchante grosse série. Mais tu sais, cette année, plus que jamais, ce qui s'est passé avec la Ligue, puis je comprends l'engouement avec le Canadien aussi, mais moi, ça m'a ramené, Jeff.
Ah oui,
ça m'a vraiment ramené à écouter le hockey, puis même des matchs de d'autres. T'sais. Je regardais un gars hier comme Mark Stone, qui est un gars qui a perdu en vitesse, mais qui est tout le temps bien positionné. Un gars qui réfléchit le hockey comme...
Tellement bon.
Quelqu'un qui a été capable de s'adapter, de faire « OK, j'ai plus les jambes que j'avais avant, j'ai plus le coup de patin que j'avais avant, mais comment je fais pour être à bonne place au bon moment? » Puis il réussit tout le temps à être à la ligne bleue, au bon spot, à recevoir la puck. Quel capitaine! C'est ça un capitaine. Quelqu'un qui est capable de se lever, puis par son leadership dans le vestiaire, probablement de montrer aux gars « Moi, j'ai du bagage en arrière de la cravate, mais même si je suis moins rapide que les jeunes, je vais quand même être capable de vous montrer que je peux vous donner deux, trois exemples encore. J'ai encore du gaz dans le tank, tu sais, pour être capable.
Je termine avec une belle image de la Coupe Stanley, puis je pense que c'est ma préférée. Le 9 juin 2001, et je m'en souviens parce qu'on écoutait ça dans la cour d'une de mes amies, il faisait tellement beau. L'Avalanche du Colorado l'emporte 3-1 sur les Devils du New Jersey. Joe Sakic va chercher la Coupe Stanley et va la déposer immédiatement dans les bras de Raymond Bourque. 22 ans plus tard, Raymond Bourque remportait sa première Coupe Stanley. On écoute un extrait.
You saw Sakic go over to Pat 2, Ray Bourque.
There's one player who's waited a long time to hoist this. Joe Sakic, come get the cup so he and the rest of your teammates can hoist.
Même Gary Bettman disait, il y a un soir, que ça fait longtemps, ça faisait 22 ans qu'il était dans la Ligue.
The Stanley Cup winning Colorado Avalanche. And after 22 years, Raymond Bourque!
Des frissons.
Ah ouais, c'est malade.
Raymond Bourque! C'était exceptionnel comme moment. Et la légende Patrick Roy avait pris tout son sens encore une fois cette année-là parce que l'Avalanche perdait 3-2 dans la finale de la Coupe Stanley contre les Devils du New Jersey. Et Patrick Roy, devant les journalistes, a dit « Écoutez-moi bien, l'an passé, on n'a pas réussi. Cette année, je prends les choses en main. On va gagner la Coupe Stanley pour Raymond Bourque. Il a fait un jeu blanc au New Jersey, la game 6. Ça a fini 3-1 la game 7, mais parce que, genre, les Devils ont marqué un but dans les deux dernières minutes.
Oui, puis te souviens-tu, c'est le match, donc, avant ces deux-là, il était sorti de son but.
Oui.
Patrick Roy s'était rendu super loin, quasiment à la ligne bleue de son territoire. Finalement, il s'était fait déjouer. Puis je me souviens encore d'entendre les commentateurs de l'époque dire « S'ils perdent la coupe, il va se faire parler longtemps de cette sortie-là dans son but. Ouais. » Ça avait été marquant, ça aussi. Il avait gagné le Conn Smythe cette année-là. Aussi, puis tu sais, Raymond Bourque qui était pour les Browns depuis toujours, qui fait la transition dans cette équipe-là. Probablement le meilleur aux quatre cibles aussi.
Ah, ben oui, quand il était toujours 4 à 4.
Il était toujours 4 à 4. Il était très, très dur à battre. Il était vraiment solide.
T'as tellement raison. Donc, Patrick Roy, une légende de 86 à 2001 parce que c'est 3 trophées Conn Smythe. Il n'y a aucun autre joueur dans l'histoire de la Ligue nationale qui a 3 trophées Conn Smythe.
Incroyable.
C'est fou. Incroyable. Courte pause, on parle avec le député indépendant d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, immédiatement après cette pause. On va revenir, entre autres, sur les boissons énergisantes. Pourquoi il a décidé de se rallier aujourd'hui à ce projet de loi?
On jase jusqu'à 14h.
13h39 minutes, émission d'En jase avec Jeff Fortin, Nathan Meilleur. Comme à chaque lundi à vendredi, ce sera le retour de Gravel avec Denis Audrey et Véro par la suite et Marceau le soir de 18h à 19h. Nathan, on en a parlé en début d'émission dans le caucus. C'est disponible sur le blvd.fm avec Antonine Iaccarini si vous l'avez manqué. Et on se posait la question, coudonc, qu'est-ce que les députés avaient à gagner à être contre la loi qui interdit les boissons énergisantes? Puisque la population était derrière ce projet de loi-là. Finalement, tout le monde s'est rallié et ça vient d'être adopté dans la formule 1-2-3, là, qui est la formule rapide pour adopter des projets de loi. Et on a justement au bout du fil un député qui, hier, avait dit « Hey, pas sûr que je vais me rallier. » Ce matin, a décidé de se rallier. C'est Pierre Dufour, député indépendant d'Abitibi-Est. Monsieur Dufour, comment allez-vous?
Ça va bien.
Monsieur Dufour, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous rallier pour faire en sorte que le projet de loi Zacharie-Miron soit adopté?
Bien, on ne se cachera pas que les consultations hier matin, ça a été vraiment, vraiment très sobre et on pourrait dire très peu instructive sur le plan de du côté scientifique, sur pourquoi qu'on faisait un projet de loi, pourquoi on interdisait une vente, pourquoi qu'on mettait l'âge de 16 ans, etc. Et le projet de loi en soi, c'est un projet de loi actuellement qui n'a pas beaucoup d'articles dans le projet de loi. Et les articles qui sont là, il y a une interdiction pour l'âge de 16 ans et il y a beaucoup d'amendes pour un peu le même principe quand tu vends de l'alcool à des jeunes dans un dépanneur que tu n'as pas le droit, etc. Donc, à un moment donné, dans cette dynamique-là, je pense que c'est important d'intervenir, d'avoir quelque chose pour justement contrôler ce type de boisson-là qui est, c'est démontré, là, je pense, par les scientifiques, aucun bénéfice sur la santé, etc. Mais quand on regarde la chronologie de tout ce dossier-là, 2019, la demande par l'ancienne ministre McCann, ensuite de ça, 2023, le rapport, 2024, le tragique accident du jeune Miron. Et on arrive à la toute fin avec un projet de loi qui, selon moi, est très bâclé, avec peu d'étoffe sur, exemple, la formation, la prévention, des éléments comme ça. Ce qui fait en sorte que moi, hier, après ces consultations-là, j'ai entrepris des téléphones avec des pharmaciennes, des infirmières. Et ce matin, j'avais en discussion le cardiologue Paul Poirier, qui travaille depuis nombre d'années sur le dossier des boissons énergisantes. Et ce qu'on a déterminé avec M. Poirier ce matin, c'est que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, au moins, avec l'arrivée du projet de loi, ça permet d'aller de l'avant pour améliorer la situation. Puis M. Poirier, ce qui me garantit, c'est que lui, avec la nouvelle nomenclature gouvernementale qui sera en place après le mois d'octobre, il va leur présenter un dossier étoffé sur les manières de faire les choses en prévention et en formation pour justement réouvrir cette loi-là pour faire en sorte qu'elle soit plus incisive et plus complète. Et je pense que c'était l'élément, moi, qui fait en sorte que je trouve très intéressant dans la démarche. Et comme tous les partis d'opposition se sont ralliés à la dynamique du projet de loi actuel, ben, je vois pas pourquoi que quelconque parti qui sera au pouvoir ne prendra pas acte des éléments de travail que M. le cardiologue Paul Poirier leur a donné.
Mais c'est ça que vous attendiez donc officiellement, M. Dufour, parce que sinon vous aviez peur de quoi avec ce projet de loi-là? Vous aviez peur que ça crée jurisprudence puis qu'on décide de prendre ce projet de loi-là comme exemple pour après ça bâcler peut-être d'autres projets de loi dans le futur, tu sais, sachant qu'on avait l'option au moins d'enclencher le processus. Let's go, on part la machine, puis après ça, on réouvrira tout ça, puis on le fera. Mais là, il faut agir rapidement vu la fin des travaux de l'Assemblée. C'est ça qui vous faisait peur, que ça crée comme jurisprudence?
On est dans un élément de sensibilité à cause qu'il y a eu un décès. Ça, tout le monde, je pense, l'admet et le comprend. On est dans un élément de sensibilité parce qu'on sait que ces boissons-là, c'est pas un bénéfice pour la santé, mais le marketing et la publicité qui entoure ces boissons-là est très attractif pour les adolescents. Rendu là, on arrive avec un 16 ans. Santé Canada nous parle de 14 ans. Les experts qui avaient été consultés disaient 18 ans. Pourquoi qu'on prend l'âge de 16 ans? Parce que, malheureusement, le petit bonhomme avait 15 ans. Moi, je me dis, à un moment donné, quand tu fais des projets de loi avec des interdictions, c'est des interdictions pas simplement pour une personne, c'est pour la société du Québec, on peut-tu s'assurer que quand on fait une action, on la fait tangible avec des faits scientifiques et non simplement par sensibilité à une action? C'est un peu là que moi, j'allais un peu dans ma dynamique. Puis les présentations qu'on a eues l'autre matin par l'INFPQ, c'était décevant. Ils ont passé leur temps à parler du marketing, puis de la distribution de ces produits-là, puis le merchandising, etc. Moi, je m'excuse, la santé publique, je m'attends qu'ils viennent me confirmer avec des faits réels, scientifiques, la problématique que ça cause. Et là, après ça, on avait aussi une présentation d'un cardiologue qui, lui, nous présente ça, puis qui nous dit, bien, pas sûr que c'est justement la cause. Boire trop de café, ça peut arriver. Il y a certains produits de café qui sont aussi nocifs que celui-là.
Mais là, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez cru le cardiologue aujourd'hui?
Bien, parce que M. Poirier, c'en est un monsieur qui travaille, un cardiologue qui travaille sur le dossier depuis nombre d'années.
Et c'était pas lui qui était là hier?
Non, c'était pas lui.
OK.
Et j'ai parlé aussi avec des infirmières, des pharmaciennes qui m'ont dit aussi des situations de problématiques de santé mentale reliées à ces produits-là, quand tu prends des produits pour contrôler ta situation de santé mentale, etc. Donc, toutes ces discussions-là que j'ai eues avec ces intervenants-là ont fait en sorte que moi, suite à ça, j'ai dit, bon, comment qu'on fonctionne? Puis ce matin, avec le docteur Poirier, ce qu'il m'a dit, Pierre, il dit, c'est un peu comme l'histoire de la cigarette au départ. S'il n'y aurait pas eu un début de projet de loi quelque part, on aurait eu de la misère à intervenir pour la suite. Donc, du moins, il dit, je te dis, on est mieux de débuter avec ça, même si ce n'est pas parfait, puis on ira sur du long terme, sur d'autres projets, pour réouvrir cette loi-là au fur et à mesure.
Très content de voir que vous êtes rallié, M. Dufour. Je pense, comme vous, qu'il faut vraiment commencer en quelque part, puis je voyais ça comme un beau début pour protéger notre jeunesse. Je termine en vous demandant, quel est votre avenir politique? Est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections?
Moi, quand on m'a mis comme situation indépendante en septembre 2025, moi, j'ai dit, je vais faire mon terme dans ma tête. J'ai dit, je fais mon terme jusqu'au 12 juin à titre de député indépendant. Puis par la suite, je prendrai la décision de voir si je fais des approches auprès de certains partis, même s'il y a déjà certains partis qui m'ont approché.
Ben oui, le PLQ, vous avez approché avec Pablo Rodriguez, notamment.
Ben Pablo, c'est une connaissance personnelle, on sait jaser.
Il a, c'est pas ça, c'est bon ça, Pablo, une connaissance personnelle.
Quand vous dites, avez-vous déjà mangé des brownies ensemble, ou vous voulez dire quoi, là?
C'est pas des brownies.
OK.
On a même été critiqués, par contre, je peux te le dire.
OK, bon, c'est bon ça. C'est mieux pour la santé.
Ben c'est ça, c'est mieux pour la santé.
Oui, ça
nettoie votre réputation aussi, bravo.
Mais suite à ça, moi je l'ai dit, après ça, ben on regardera voir qu'est-ce qu'on fait. Puis on analysera. Puis si je veux faire des approches, ben là, à ce moment-là, je ferai des approches concrètes auprès de certains partis.
Mais là, la CAQ, là, on dit toujours, on sait pas, là, c'est qui est dans l'aile bleue, c'est qui est dans l'aile rouge. Vous êtes pas ou contre la souveraineté du Québec?
Moi, je m'en cache pas, là. Moi, j'ai voté indépendant jusqu'en 1995 et je connaissais Jacques Parizeau personnellement. Et je croyais beaucoup au plan économique de Jacques Parizeau. Suivant la perte du référendum de 95, après ça, j'ai revoté que du côté fédération ou libéral. En me disant, ben, il faut se trouver des mécanismes à l'interne pour être attractif auprès du fédéral. Je vois des dossiers encore aujourd'hui. Prenons chez nous l'abattoir. On n'a pas encore d'abattoir quand même, il y a un abattoir qui est juste l'autre côté des lignes, en Ontario, mais on n'a pas le droit à cause que les normes ne sont pas les mêmes, etc. Puis on s'en va, puis on fait 500 km pour aller abattre nos vaches, exemple, à Gatineau. Je trouve ça un peu déplorable, puis on devrait davantage travailler sur des allègements réglementaires entre les provinces. Parce que je pense que ça serait au bénéfice des acteurs qui sont sur le terrain, tout bord, tout côté.
Monsieur Dufault, bon magasinage estival et au plaisir de se reparler.
On regardera, oui.
Excellent. Merci, au revoir.
Bye-bye.
Pierre Dufault, député indépendant pour Abitibi-Est. Il a décidé de se rallier comme les autres indépendants qui cherchaient du spotlight. Il a décidé de se rallier. Et le projet de loi sur les boissons énergisantes a été approuvé.
Tu sais, la démarche n'est pas mauvaise en soi. T'sais, c'est juste plate que ça retarde le processus.
Exactement.
La démarche, une fois expliquée, c'est pour ça que je trouve ça le fun, justement, avec la plateforme qu'on a, d'avoir le temps de discuter, de poser des questions. Puis là, je comprends mieux quand même. Je ne suis pas en accord.
Non.
Mais je comprends mieux quand même le point de M. Dufault qui nous explique, écoute, je trouve que la présentation de l'INSPQ hier était so-so, puis il nous parlait de marketing, puis de... On le sait qui cible les jeunes. Ça, on le sait déjà. Venez nous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose de concret. Ah, moi, j'étais pas là hier à la présentation de l'INSPQ. Ça, je sais pas. Tout ce qui s'est passé, on a vu un peu dans les médias. Oui, mais j'étais quand même pas là. J'étais pas présent. Fait que la démarche n'était pas mauvaise. Je la comprends mieux. Ce que je préfère, c'est avoir la chance de jaser encore là avec des politiciens, politiciennes qui vont m'expliquer qu'ils l'ont pas fait pour essayer d'avoir le spotlight, comme tu dis, justement. Si tu m'expliques ton point, puis je comprends c'est que c'est ça. Pour des bonnes raisons, puis c'est vraiment d'un point de vue politique, faut pas aller trop vite, faut pas tourner les coins ronds. Ah, OK, je suis prêt à t'écouter. Mais tu sais, je serais pas prêt à dire... Je partagerais pas de jus de pamplemousse avec personne, mettons. On va dire ça de même. Mais le point de M. Dufault, je peux le comprendre. Je peux en comprendre une partie du bout.
C'est un bon exemple.
Garde, on va dire ça de même.
Courte pause et on termine avec la finale de basketball ce soir à New York, quatrième match. Nate, excellente nouvelle pour finir le show.
Vas-y donc.
L'hymne national américain ne sera pas hué ce soir à New York parce que Donald Trump va être absent.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, parce que j'avais commencé à me pratiquer, moi.
Ben, c'est ça.
Ouh, c'est Ken aussi.
Ah, ben oui.
Je m'étais pratiqué, mais j'aurais pas besoin, finalement. C'est parfait.
Non, ben, Donald s'est organisé un petit party de UFC devant la Maison-Blanche samedi.
Ça. Tu sais, écoute bien. Je sais bien que ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, moi, je vais avoir 40 ans là, cette année. Puis c'est sûr, je regarde ça du coin. Ça n'a aucun maudit bon sens.
Non.
Mais tu sais, pense-y deux secondes que pour ta fête, tu te colles un party de UFC. Ouais. C'est quand même basse en tabarouette. Là.
Exactement.
C'est pas, mais je suis pas d'accord avec ça.
Non.
Ça flash pareil.
C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que Val, t'as de la pression pour mon 47 ans l'an prochain.
À moins que ça soit des amis à toi qui se battent. On va juste se faire un hexagone dans ta cour. Pis
c'est vrai.
Peut-être moyen de s'organiser quelque chose. Ah, avec la gang de la lutte, on peut peut-être s'organiser de quoi? C'est pas bête, Jeff.
Ah non, c'est pas bête.
Je vais en parler avant. Hein?
Un party de la NSPW, pourquoi pas. Golden Opportunity samedi, d'ailleurs, manquez pas ça. Au pavillon Guy Lafleur, Denis Gravel arrive avec Véro et Audrey. Nous, on se dit à demain. Salut, Nate.
À demain.